Conférence sur la recherche actuelle dans le domaine du développement du jeune enfant par Séverine Miotte, maître de conférence en psychologie, le mercredi 6 avril 2011 à Tournus.
Donc au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je vais avoir en gros trois grandes parties. On va dire que la deuxième, c'est celle où j'essaierai d'aller le plus vite possible, parce que c'est des choses que logiquement vous connaissez, en tout cas vous êtes familier avec ça, de par votre expérience. Donc la première, ce sera plutôt des perspectives théoriques, en gros sur l'acquisition du langage, comment les théories, les différentes théories expliquent l'acquisition du langage. Et donc il y aura aussi, bien entendu, des choses un peu sur le développement en général, le développement cognitif en général et l'apprentissage en général. En gros, pour certaines théories, je vous dirais, voilà globalement comment est-ce qu'ils expliquent le développement de l'enfant, et en particulier pour le langage, voilà comment ça s'explique. La deuxième partie sera plus une partie développementale, rappeler en gros, on va dire, les grandes étapes dans l'acquisition du langage oral de 0 à 6 ans. Les âges moyens, donc ça vous savez bien entendu qu'il y a, ça doit être le domaine où il y a le plus d'hétérogénéité, le langage, donc les âges sont toujours à prendre avec des pincettes, c'est vraiment des moyennes, il y a beaucoup de variations. Et puis la troisième partie sera plus une ouverture vers l'enseignement, sous forme, on va dire, un peu de synthèse comparée à ce que j'aurais dit, des pistes de réflexion que ça peut lancer, et puis les notions importantes, à mon avis, qu'il faut garder à l'esprit quand on enseigne le langage oral, mais quand on enseigne en général. Donc le principe, voilà, c'est partir du langage et puis essayer d'ouvrir un peu sur l'apprentissage en général, donc le développement cognitif. Et donc le but, faire tenir ça en 3 heures. On va essayer. Alors, on va commencer par de la théorie. Je vais essayer de faire ça de manière claire et intéressante. En général, les gens, la théorie, ça leur fait un peu peur, alors que c'est de la théorie qu'on peut réussir à trouver des améliorations, par exemple, ou des réflexions pour les pratiques. Alors, je vais commencer avec ce qu'on appelle donc les behavioristes. On les connaît aussi sous le nom de comportementalistes ou associationnistes. Juste un représentant, en gros, vous allez tout de suite voir, c'est Pavlov, le chien de Pavlov. En gros, eux, leur position par rapport à l'enfant et au développement de l'enfant, en gros, c'est que tout est à apprendre, tout est à acquérir. Il n'y a rien d'inné. En gros, à la naissance, l'enfant, ils appellent ça la tabula rasa, donc la table vierge, l'ardoise vierge, sur laquelle on va pouvoir et devoir tout imprimer. Donc on va devoir tout leur apprendre. Le développement, chez eux, est conçu comme c'est une série de changements comportementaux. Ils s'intéressent vraiment qu'à l'aspect comportemental. Et ces changements vont résulter de l'influence de l'environnement. Vous savez, c'est le fameux lien stimulation de l'environnement, réponse comportementale. Donc je vous ai mis cette citation de Watson, qui est le père du behaviorisme, pour dire vraiment pour eux, c'est l'environnement qui va tout déterminer dans le développement de l'enfant. Donc il disait, par la seule manipulation de l'environnement, on peut former un enfant de telle sorte qu'il fasse ou devienne ce qu'on désire sans tenir compte de ses talents, de ses penchants, de ses habiletés, de sa vocation et de la race de ses ancêtres. En d'autres termes, il disait aussi, donnez-moi n'importe quel enfant, j'en fais ce que je veux, j'en fais aussi bien des avocats, des médecins que des délinquants, que de, voilà, n'importe quoi. Donc c'était vraiment, tout est à apprendre et on peut tout, on peut vraiment modeler les enfants. Au niveau de l'apprentissage, donc comment est-ce que ça se passe, modelage, on va dire, l'apprentissage, ça résulte du fameux conditionnement qui avait été mis en évidence par Pavlov et par Skinner après. Donc le développement, ça se fait par un renforcement des liens qu'il y a entre les stimulations de l'environnement et les réponses comportementales de l'enfant. Et ce renforcement va dépendre des conséquences qui suivent les réponses comportementales de l'enfant. Alors renforcement, c'est le terme général. En fait, si on regarde dans le détail les différentes conséquences qu'il peut y avoir, on a les renforcements et les punitions. Alors les renforcements, c'est ce qui, on va dire, les stimulations, les stimuli qu'on va donner qui vont viser à augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement. En général, si on le fait de manière appropriée, c'est pour essayer d'augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement qu'on a envie de voir perdurer chez l'enfant. Les renforcements peuvent être positifs ou négatifs. Donc par exemple, je vous ai mis cet exemple-là, l'enfant qui pleurniche pour qu'on le prenne dans ses bras, au bout d'un moment on en a marre, on le prend, et il arrête de pleurer. Dans cet exemple-là, on a les deux aspects, on a les renforcements positifs et négatifs. Donc l'enfant qui pleurniche pour qu'on le prenne dans ses bras, on le prend, ça c'est un bon renforcement positif pour lui. Il avait ce comportement-là, il demandait de l'attention, il voulait qu'on s'occupe de lui, résultat, on s'occupe de lui, on le renforce positivement. Donc, résultat, on a de grandes chances de faire perdurer ce comportement-là chez l'enfant. Et puis l'aspect, on le prend, il arrête de pleurer, renforcement négatif pour nous, mais qui va donc augmenter la probabilité d'apparition de ce comportement, de le prendre dans ses bras, parce qu'on l'entendait pleurer, on en avait marre de l'entendre pleurnicher, on ne l'entend plus pleurer, on a retiré quelque chose de désagréable. Résultat, on va avoir probablement tendance, nous aussi, à augmenter ce comportement qui n'était pas celui qu'on voulait voir perdurer, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux renforcements comme ils sont utilisés, parce que des fois, les conséquences peuvent être à l'opposé de ce qu'on avait envie au départ. Et de l'autre côté, donc, on a les punitions, qui, elles, vont être plutôt faites dans le sens de faire diminuer la probabilité d'apparition d'un comportement. Donc, si on le fait de manière adéquate, c'est un comportement qu'on n'a pas envie de voir perdurer, mais à nouveau, il peut y avoir des effets pervers. Donc, je suis désolée, les textes en dessous sont un peu coupés. Sur la présentation, je pourrais la donner à Jean-Luc Bontrain, qui pourra vous la faire parvenir, si vous la voulez, une petite parenthèse. Donc, on a des punitions positives et des punitions négatives. Positives, c'est dans le sens où on va ajouter quelque chose, négatives, on va retirer quelque chose. Donc, par exemple, une punition positive, on va ajouter une stimulation après le comportement de l'enfant qui va être désagréable, donc qui va essayer de faire disparaître ce comportement. Par exemple, envoyer un enfant au coin après qu'il ait tapé un autre enfant, ou répondu, ou pas fait son travail, voilà. Effet pervers, par exemple, se moquer d'un enfant qui essaie de dire un mot nouveau. Par exemple, d'autres enfants peuvent se moquer d'un petit qui est en train d'essayer de dire un mot nouveau, qui se trompe dans la prononciation, qui n'y arrive pas. Si l'enfant prend ça comme une moquerie, ça peut être un comportement, une stimulation désagréable qui est apparue après cette tentative. Et dans le sens punition, ça pourrait donc au final diminuer la probabilité d'apparition de ce comportement, d'essayer de dire des mots nouveaux. Donc toujours faire attention au feedback et aux interprétations qui peuvent être faites par l'enfant. Donc, j'ai mis d'autres exemples après, toujours pour vous montrer les effets positifs et peut-être pervers des fois des renforcements. Si on regarde au niveau de l'apprentissage du langage, ça c'est l'apprentissage en général, hein, comme ils expliquent l'apprentissage en général, l'idée c'est donc que l'enfant, pour apprendre le langage, en fait il apprendrait ça par imitation, donc c'est l'environnement qui lui donnerait, on va dire, les inputs langagiers, linguistiques, donc il écouterait ce que les autres disent, après il essaierait de reproduire ce que les autres ont dit, et puis il y aurait des renforcements, des punitions, on va dire des choses positives ou négatives qui renforceraient ou pas ce que l'enfant a dit. Donc en gros, c'est l'apprentissage un peu par essai-erreur, donc il essaye de faire des choses, des fois il fait des erreurs, donc les gens ne comprennent pas, bon, c'est pas comme ça qu'il fallait parler, et puis des fois il est récompensé, il dit quelque chose, et puis les personnes autour de lui le comprennent, le félicitent, font le comportement que l'enfant voulait, donc là il va être renforcé positivement, il va dire donc je vais continuer à produire ces phrases-là, ces mots-là, parce que les gens m'ont compris. Alors, dans le cas des apprentissages complexes comme le langage, on ne dit pas qu'on utilise du renforcement, comme c'était fait dans les autres expériences, on parle plutôt de façonnement. L'idée c'est qu'on va en fait renforcer les choses progressivement, c'est-à-dire qu'au début on va renforcer des choses qui sont peut-être un peu approximatives, qui se rapproche du comportement qu'on voudrait voir émerger chez l'enfant, et qu'au fur et à mesure, on va arrêter de renforcer ces approximations pour attendre le comportement désiré. Donc c'est le fameux, l'enfant qui demande un tâteau au début, et puis on est très content qu'il ait dit tâteau, c'est son nouveau mot, on a compris qu'il voulait un gâteau, donc on va lui donner un gâteau en disant « oui mon chéri, tiens un gâteau », renforcer positivement, il se dit « c'est bien, c'est tâteau, on m'a compris, c'est donc un gâteau, donc j'ai obtenu mon gâteau, donc c'est très bien ». Puis au fur et à mesure, c'est pas tâteau qu'il faut qu'il dise, c'est gâteau. Donc au fur et à mesure qu'on sait que l'enfant devient capable de prononcer certains phonèmes, qui serait capable de dire gâteau, on va arrêter de renforcer tâteau. Donc quand il va nous dire un tâteau, maman, on va lui dire « Ah mon chéri, c'est quoi que tu veux ? J'ai pas compris ». Donc là, c'est pas le bon renforcement qu'il voulait. Jusqu'au moment où il va dire un gâteau, et là on va dire « Oui mon chéri, d'accord, allez, je te donne un gâteau ». Donc c'est plutôt du façonnement qu'on fait, on va dire, on fait un apprentissage un petit peu plus progressif. Ce que ça implique aussi, cette idée du behaviorisme, en fait, ça veut dire, puisque l'enfant, il apprend par imitation, et qu'il a aucune connaissance avant, qu'il doit tout apprendre de par l'environnement, ça veut dire, par exemple, si on prend simplement le cas des phrases que l'enfant produit, donc le cas de la syntaxe par exemple, ça veut dire que toutes les constructions syntaxiques doivent un jour être entendues par l'enfant pour qu'il puisse ensuite les imiter, les reproduire et qu'elles soient éventuellement renforcées ou pas. Donc ça a été, je dirais, le point sur lequel il y a eu tout de suite une réaction d'autres courants théoriques pour dire c'est pas possible. C'est pas possible que l'enfant, il entende pendant les premiers mois de sa vie ou les premières années de sa vie, toutes les phrases potentiellement prononçables par les gens. Il est capable de comprendre des phrases qu'il n'a jamais entendues, il est capable de produire des phrases qu'il n'a jamais entendues. Vous aussi, adulte, hein, ça voudrait dire que tout ce que vous comprenez, tout ce que vous produisez, ça veut dire qu'un jour, quelqu'un vous l'a dit et qu'un jour, vous avez essayé vous-même de produire. Donc tout ce que je vous ai dit depuis le début, en gros, ça veut dire que ces phrases-là, texto, vous les avez entendues déjà une fois dans votre vie. Ça m'étonnerait. L'autre exemple, si je vous dis une phrase que vous êtes sûr, vous n'avez jamais entendue, parce que ce n'est pas quelque chose possible de dans l'environnement, vous allez quand même être capable de l'interpréter. C'est des choses qu'on utilise avec des patients aphasiques, par exemple. Si je vous dis, que je ne me trompe pas, que je donne dans le bon sens, la fille est arrosée par la fleur. Vous pouvez vous dire, bon, c'est pas trop le sens que j'attendais, mais vous êtes capable, si je vous montre une image dessinée d'une fleur qui arrose une fille ou d'une fille qui arrose une fleur, si je vous dis la fille est arrosée par la fleur, vous serez capable, même si vous dites elle est un peu tarée celle-là, de vous dire cette phrase-là, de choisir la bonne image correspondante. Donc une phrase que vous n'avez jamais entendue, vous êtes capable quand même de l'interpréter. L'idée, c'est que justement, on n'apprend pas toutes les phrases, mais on apprend à calculer le sens des phrases, on apprend les règles de la syntaxe. Donc, effectivement, on sait que l'enfant, il apprend par imitation, mais il n'apprend pas que par imitation. Et donc, sur ce point-là, derrière, il y a les nativistes. Alors là, on avait tout est acquis, maintenant, on a tout est inné. Donc, j'aime pas le point de vue radical. Tout est inné. Alors, eux, ils sont opposés justement au behavioriste sur cette idée de la syntaxe. L'argument qu'ils donnaient, ça s'appelle la pauvreté du stimulus, c'est de dire que justement l'enfant, tous les inputs, donc toutes les phrases que l'enfant entend, toute la communication qu'il peut y avoir autour de lui, c'est insuffisant pour rendre compte de la complexité des choses qu'il est capable de comprendre et de produire. En gros, voilà, il n'entend pas toutes les phrases potentiellement productibles par lui et compréhensibles par lui. L'autre point, c'était de dire que on voit aussi des enfants qui sont capables, sans avoir eu d'enseignement formel, déjà ils apprennent à parler avant d'avoir un enseignement formel à l'école, et puis il y a des choses en fait qu'on n'apprend pas aux enfants très tôt, il n'y a pas d'enseignement formel là-dessus, ils sont pourtant capables de comprendre, par exemple la co-référence des pronoms. Savoir à qui ou à quoi un pronom réfère dans une phrase, ça peut ou pas référer dans une phrase, il n'y a pas d'enseignement formel au début là-dessus, même après je crois. En tout cas, l'enfant, il est capable très tôt de réussir, quand on lui fait des exemples, des phrases racontées avec des pronoms, il est capable de savoir si ça peut référer à un ours ou à un autre garçon, voilà. Il n'a aucun problème avec ça. Donc c'était de dire, peut-être qu'on apprend des choses par imitation, mais il y a probablement des choses innées. Alors, c'est le grand représentant de ce courant-là, c'est Chomsky. Je suis désolée, c'est rhinopharyngite méchante. Lui, ce qu'il dit, c'est que tous les bébés, donc, ils viennent au monde avec une capacité innée, un équipement inné cérébral qui vient de l'évolution, une espèce. Donc, une capacité innée pour traiter et pour produire du langage. Donc, cet équipement inné, il est construit, on va dire, avec deux éléments. Il y a la grammaire universelle et puis ce qu'il appelle le dispositif d'acquisition du langage. On va dire que la grammaire universelle, c'est vraiment tout ce qui est inné, ce qui va être commun à toutes les langues du monde, parce que si c'est inné, ça veut dire que c'est commun à toutes les langues du monde, sinon ça ne peut pas être inné. Et puis le dispositif d'acquisition du langage, c'est plus des choses qui sont spécifiques aux langues. Donc la grammaire universelle, c'est les grands principes langagiers qui sont caractéristiques de toutes les langues humaines, quelles que soient les langues qu'on prenne. Alors c'est vraiment des grands principes, genre dans toutes les langues du monde, on parle avec des phrases, les phrases sont constituées de syntagmes, dans toutes les langues du monde il y a des noms, il y a des verbes, donc il y a des groupes nominaux, il y a des groupes verbaux, toutes les langues du monde sont structurées, elles ont un ordre dans lequel les mots doivent apparaître, et les mots n'apparaissent pas n'importe comment. Donc ça c'est vraiment des grands principes langagiers, donc il dit que l'enfant il aurait cette connaissance-là, innée. Et à côté, avec ce dispositif d'acquisition du langage, en gros, il aurait des mécanismes cérébraux de traitement, des inputs qu'il reçoit, qui lui permettraient justement de traiter les phrases qu'il entend afin d'extraire tout ce qui est vraiment précis, caractéristique de sa langue maternelle. Donc tout ce qui est propriété phonétique, phonologique, sémantique et syntaxique. Donc juste un exemple, par exemple, il va dire l'enfant, il a cette capacité innée, cette connaissance innée de chercher de la structure dans les langues, parce qu'il sait que les langues sont structurées. Et en fait, il va écouter les phrases qu'il entend pour essayer de deviner quelle est la structure de sa langue maternelle. Nous, par exemple, on a une langue sujet-verbe-objet. Dans d'autres langues, ça va être sujet-objet-verbe, d'autres, ça va être verbe-sujet-objet. Chaque langue a sa structure. Donc l'enfant, il a la dans la grammaire universelle, je sais que c'est structuré, bah, dans ma langue, comment c'est structuré? Donc c'est le modèle des principes et des paramètres. Les principes, c'est tout ce qui est inné, les paramètres, c'est tout ce que l'enfant doit fixer, doit découvrir dans sa langue maternelle. Alors, ce qui était bien avec cette théorie-là, en tout cas, c'était de dire que l'enfant, il est capable, en tout cas, par exemple, d'extraire des règles. Soit il connaît les règles, soit il arrive à les extraire. Et que, donc, à partir d'un nombre fini d'énoncés, donc limité de phrases qu'il entend, il est capable de construire la grammaire de sa langue maternelle. Il est capable, au fur et à mesure, de se dire, bah, ma langue, c'est une langue sujet, verbe, objet. Les noms, bah, avant les noms, il y a des articles. Avant les verbes, il y a des auxiliaires, il y a des pronoms. Voilà, de réussir à comprendre les régularités qu'il y a dans sa langue maternelle. Ce qui, au final, va lui permettre donc de comprendre et de produire un nombre infini d'énoncés. Donc, à partir d'un nombre limité, on extrait la grammaire, la structure de notre langue, l'organisation syntaxique de notre langue. Une fois qu'on a compris l'organisation globale de notre langue, ben on peut la calquer sur plein d'autres phrases nouvelles. On n'a pas besoin de toutes les entendre. Donc c'est ce qu'on appelle la productivité du langage. À partir d'un nombre limité d'énoncés, on arrive à produire et comprendre un nombre illimité d'énoncés. L'autre aspect, c'est à partir d'un nombre limité de mots, on est obligé d'apprendre tous les mots de notre langue, mais à partir d'un nombre limité de mots, on est capable de produire et de comprendre un nombre illimité de phrases. Donc cet aspect d'aller du limité vers l'illimité, c'est la productivité du langage. C'est ce qui nous caractérise, quand on dit que le langage est le propre de l'homme, c'est cet aspect-là qui est vraiment caractéristique de l'être humain. Même dans les autres espèces où on essaye de faire apprendre, où il y a de la communication, ou alors chez les grands singes, quand on essaye de leur apprendre à parler, à apprendre des associations entre des images et des mots, ils sont capables d'apprendre quelques mots, ils sont capables d'apprendre quelques phrases, mais ils ne sont pas capables de productivité. Donc si on leur montre des associations d'images qu'on leur a jamais apprises, ils ne sont pas capables de deviner le sens des mots, le sens des phrases. Alors actuellement, je dirais qu'il y a un certain consensus quand même dans la communauté scientifique pour dire qu'il y aurait une capacité génétiquement déterminée qui permettrait aux enfants d'apprendre une langue humaine. L'évolution a dû faire quand même qu'on est assez, on va voir, très dès la naissance, les enfants, ils ont vraiment de grosses capacités au niveau du langage. Ils ont une préférence pour le langage aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la capacité d'apprendre de manière innée une langue particulière. C'est juste d'être sensible au langage. Alors, il y a encore des débats. Hein, le débat inné-acquis, on va dire, il est un peu dépassé parce qu'on dit qu'il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Mais là-dessus, par exemple, sur l'aspect de la syntaxe et des règles, il y a des débats. Par exemple, est-ce que les enfants connaissent des règles abstraites, syntaxiques, de manière innée? Je ne suis pas trop de ce courant-là. Je suis plutôt de l'autre qui dirait que, comme il y a des règles, effectivement, il y a des régularités dans le langage. Effectivement, c'est toujours des sujets, des verbes, des objets, et que l'enfant, il serait plutôt sensible aux régularités, et à force d'entendre ces régularités, il arriverait à extraire des règles. Et donc, pour donner un dernier exemple, pour vous dire qu'effectivement, l'enfant, il a l'air de découvrir des règles, et qu'il est capable de produire des choses qu'il n'a jamais entendues, l'exemple tout bête, c'est, vous avez déjà entendu plein de fois les enfants le faire, quand ils vous créent des participes passés, qui en fait sont irréguliers chez nous, et eux, ils vous font un truc régulier. Donc, ça va être « j'ai prendu quelque chose », au lieu de « j'ai pris ». Voilà. Ils nous en font plein, des choses comme ça. En gros, ils sont en train de créer, c'est-à-dire qu'en gros, à force d'entendre des choses, ils se sont dit « ah bah la règle de formation du participe passé, c'est ça, je l'applique à des nouveaux mots que j'ai jamais entendus, ou que j'ai jamais créé le participe passé », et des fois, ils se trompent. Mais c'est une manière, à nouveau, de vous montrer qu'effectivement, les enfants, ils ont l'air d'être sensibles, en tout cas, ils arrivent à extraire à un moment des règles dans les phrases qu'ils entendent, et qu'ils n'ont pas besoin de tout entendre pour produire des choses, parce qu'ils arrivent à produire des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Alors, après cette question, je dirais, inné acquis, en gros, le résumé, c'est qu'il y a de l'inné. En tout cas, il y a des capacités à extraire des règles. Il y a probablement de l'inné dans le langage, en tout cas, une prédisposition au langage chez l'enfant. Mais il y a plein de choses que l'enfant acquiert, par imitation, par exemple aussi. Le débat, il s'est déplacé sur un autre niveau, c'est le lien entre langage et pensée. Donc on a dit, ok, on arrête avec le premier débat, et maintenant on va regarder ailleurs. Donc là, c'est plutôt les cognitivistes qui sont arrivés, les théories cognitives, qui eux, sont opposés aux behavioristes, en disant, les behavioristes, d'accord, vous regardez le comportement, les stimulations de l'environnement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir ce qui se passe dans la fameuse boîte noire, donc dans le cerveau de l'enfant, comment l'enfant traite les choses, comment il représente les choses. Donc ils ont essayé justement, eux, d'étudier toutes les activités mentales du développement des processus de la pensée et puis l'influence que ça pouvait avoir sur les comportements des enfants, sur leur personnalité, sur leurs interactions avec les autres, etc. Donc c'était étudier la boîte noire. Un des premiers représentants là-dessus, ça a été Piaget. Donc lui, voilà, il met les choses au clair, il dit, ok, les capacités cognitives de l'être humain, c'est ni totalement inné, ni totalement acquis, c'est les deux. Ça résulte d'une construction progressive où bah, l'expérience de l'enfant dans son environnement et puis la maturation biologique, donc son développement biologiquement déterminé, ça va se combiner. Donc il dit, les deux sont importants. Alors je vous résume juste quand même trois caractéristiques essentielles de la théorie piagétienne qui sont importantes sur comment il voit le développement cognitif de l'enfant. Chose qui était importante, et c'est cette notion que j'adore chez Piaget, c'est une théorie constructiviste, dans le sens où justement on arrêtait avec cette idée de l'enfant passif, complètement malléable, complètement formé par l'environnement. Lui, ce qu'il disait, c'est que l'enfant, il est actif dans le développement de ses connaissances, dans l'élaboration de ses connaissances, dans son développement cognitif. Donc lui, c'est ça, le constructiviste, c'est l'enfant qui construit lui-même ses connaissances, grâce aux autres, grâce à son environnement, mais il est vraiment actif. Il n'est pas façonné passivement par son milieu. Et il disait, tous les comportements qu'on voit, même chez les bébés, le fait d'explorer, de toucher, de regarder, de sentir, de goûter, de tout mettre à la bouche, tout ça, c'est des comportements, on va dire, d'exploration, de découverte et de compréhension du monde. Donc il disait, c'est vraiment des choses actives chez l'individu. L'autre aspect, c'est une théorie interactionniste dans le sens où ces fameuses actions de l'individu, de l'enfant, ça consiste à interagir avec bah, le milieu qui est autour de lui. Alors, chez Piaget, c'est essentiellement le milieu physique. Piaget, il parlait vraiment de l'enfant avec le monde des objets, comment il va comprendre les objets et tout. Il ne s'intéressait pas vraiment au milieu social. Ça va être justement d'autres théories qui s'intéressent à ça. Et puis, dernier aspect de sa théorie, c'est une théorie structuraliste, donc on va dire structurée, assez rigide, donc il dit que tous les individus passent par des étapes successives, identiques, qui sont responsables du développement des connaissances. Donc en gros, il y a quatre grands stades chez Piaget, les quatre stades piagétiens, sensorimoteur, stade symbolique, les opérations concrètes et les opérations formelles. Donc en gros, il y a quatre étapes, tous les enfants passent au même âge par les mêmes étapes, et c'est ça qui est responsable du développement de leurs connaissances. Pour Piaget, au niveau du langage, le langage, il apparaît vers 2 ans. C'était ce que Piaget disait. Alors souvent, quand on voit le langage, il apparaît vers 2 ans, c'est plutôt à partir du moment où l'enfant commence à faire des phrases. Et là, le langage, il est bien plus précoce qu'à 2 ans. Certains aspects du langage, c'est là dès la naissance. À 2 ans, pour Piaget, voilà, il dit à partir du moment où l'enfant commence vraiment à produire des phrases, à produire vraiment plein de mots, on peut dire que le langage est là. Alors il dit que ce n'est pas seulement dû à une maturation interne, c'est vrai que c'est dû quand même au développement cérébral, au développement physiologique. Mais il dit que l'apparition du langage, ça a été préparé par tout le développement qui s'est passé avant, tout le développement intellectuel. Donc avant, c'est le stade sensorimoteur qui va de 0 à 2 ans. Et il dit l'accès au langage, il est conditionné par cette intelligence sensorimotrice. En gros, il dit pendant les 2 premières années de sa vie, l'enfant, il fait beaucoup d'actions sur les objets. Je veux dire, c'est vraiment des trucs sur les objets et les actions de l'enfant. Donc, il va tâtonner, il va expérimenter, il va découvrir, il va toucher, il va faire des actions dessus. Il dit tout ça, ça permet à l'enfant bah, de découvrir les objets, de mieux les comprendre, de comprendre leurs relations, de comprendre les conséquences de son comportement sur les objets, de comprendre comment les objets se comportent. Ah, donc, il apprend plein de choses sur son environnement. À la fin de ce stade, il acquiert la permanence de l'objet, c'est-à-dire qu'il comprend qu'un objet qui n'est pas face à lui, qu'il ne voit pas, existe quand même. Pour Piaget, c'était définitivement acquis à 2 ans. Et il disait que c'était un truc hyper important pour faire passer l'enfant dans le stade d'après, quel stade symbolique. Par exemple, le fait que l'enfant comprenne qu'un objet existe encore, même s'il ne le voit pas, ça veut dire que, par exemple, on peut en parler, même s'il ne le voit pas. Donc on peut mettre des mots sur ces objets. On peut aussi les dessiner, on peut les imaginer. Et donc c'était ça, en gros, symboliquement, on peut se les représenter. Et il disait que c'était grâce à ça que l'enfant, il accédait à cette faculté d'abstraction, de représentation symbolique, qui transparaissait à travers le langage, le jeu symbolique. Quand les enfants font les jeux de faire semblant, par exemple, c'est qu'ils arrivent à se représenter un téléphone alors qu'ils sont avec une banane, et qu'ils vous font allô avec. Le dessin aussi, c'est qu'il est capable de représenter symboliquement un objet, même s'il ne le voit pas. Donc pour Piaget... C'est dommage qu'elle soit coupée. Je dirais, j'avais essayé de trouver une phrase un peu choc pour se rappeler de la position. C'était « je pense, donc je parle ». C'est la maîtrise de la langue, c'est l'expression d'une intelligence générale. L'enfant, c'est parce qu'il se développe intellectuellement qu'à un moment, il accède à la capacité de se représenter symboliquement les choses et donc d'utiliser le langage. Donc pour Piaget, c'est « je pense, donc je parle ». La pensée est nécessaire à l'émergence du langage. Alors derrière, il y a eu, Piaget, de toute façon, son truc, ça a toujours été décritiqué. Bon, il y a eu heureusement plein de critiques constructives. Quand il a proposé ça, on a dit, bon bah tiens, par exemple, on va regarder, on va essayer de comparer l'intelligence des enfants sourds avec des enfants entendants, donc qui parlent, des enfants sourds qui ne parlent pas. Donc ce qu'ils ont fait dans certaines études, c'est de prendre donc des épreuves d'intelligence, hein, des tests de QI. Vous savez que dans les tests de QI, il y a des épreuves verbales et puis des épreuves non verbales. On va plus faire des tests de raisonnement, de, voilà, de catégorisation, de plein de choses comme ça. Mais on ne demande pas à l'enfant de répondre à l'oral. Donc on pouvait utiliser ça pour tester des enfants sourds et puis des enfants entendants. Donc ils ont fait passer ces tests-là à des enfants qui avaient le même âge, hein, le même âge de développement. Et à chaque fois, toutes les études ont montré que les enfants sourds obtenaient des performances moins élevées que celles des enfants entendants du même âge. Les conclusions de ces études ont été de dire qu'un déficit dans l'usage du langage parlé qu'il y avait chez les enfants sourds, ou en tout cas un retard dans l'exercice du langage, puisque les enfants sourds étaient détectés tardivement. Donc, par exemple, apprendre la langue des signes, bah, c'était quelque chose qui arrivait beaucoup plus tardivement que l'apprentissage du langage oral. Tout ça avait des répercussions sur la manière dont l'enfant traitait ses épreuves non verbales d'intelligence, donc dont l'enfant abordait et traitait des problèmes de raisonnement, des problèmes de résolution de problèmes. Donc l'idée, ça a été de dire, peut-être que je pense, donc je parle, mais il ne faut pas oublier la suite, c'est je parle, donc je pense. Donc le langage paraît fondamental dans le développement de la pensée chez l'enfant, parce que sinon on n'aurait pas de différence entre les enfants sourds et les enfants entendants. Donc les choses avaient l'air de se complexifier un petit peu. Alors après Piaget, parce que je vous fais un peu le panorama des théories, il y a eu pas mal de choses, mais ça a plus été des choses sur l'apprentissage en général, pas des choses sur l'apprentissage du langage en particulier. Piaget, le langage, c'était un truc un peu anecdotique pour lui, c'était pas un truc qui l'intéressait passionnément. Donc ceux qui sont positionnés, parce que bah, tous ceux qui sont arrivés après, sont toujours positionnés par rapport à Piaget. Il y a les anti-Piaget, il y a les néo-piagétiens, il y a les... Voilà, c'est toujours des gens qui se positionnent par rapport à Piaget. Donc ils ont plus essayé de compléter la théorie de Piaget, de réinterpréter la théorie de Piaget, mais pas obligatoirement le langage. Donc je vous mets juste, je vous liste en gros ce qui est sorti d'intéressant pour l'apprentissage, et ça je reviendrai plutôt dessus à la fin, quand on fera les choses sur l'enseignement. Donc par exemple, ça a été de dire qu'il faut faire attention au rôle de la mémoire, au rôle de l'attention, au rôle du système exécutif, donc cette partie dans le lobe temporal qui fait qu'on est capable de planifier nos activités, de faire le tri entre les informations qui nous arrivent, de savoir quelles sont les informations pertinentes, de coordonner nos actions, les opérations de traitement. Donc c'est vraiment tout le truc qui nous permet de être notre planificateur, quoi. Aussi des choses sur le rôle de la compétence et des connaissances préalables. Donc je dis tout ça, je reviendrai plutôt à la fin. Donc moi je voulais continuer maintenant sur le langage. Alors après Piaget, ceux qui sont intéressés, enfin en même temps que Piaget, ceux qui sont intéressés au langage, c'est justement les socio-constructivistes. Donc Piaget, c'est constructivisme, ceux d'après, c'est les socio-constructivistes, juste pour dire, attendez, il y a un truc qui manque vraiment dans la théorie de Piaget. Ça ne veut pas dire que la théorie de Piaget est fausse, mais en tout cas, il faut la compléter. C'est tout l'aspect social. Parce que c'est bien que l'enfant, il interagisse avec son milieu, mais autour de l'enfant, il n'y a pas que les objets. Donc, le gros reproche qui était fait à Piaget, c'était justement d'avoir négligé l'influence de tout ce qui était milieu social, milieu culturel sur le développement de l'enfant. Et donc Vygotsky, lui, ce qu'il disait, c'est que l'enfant, quand il arrive sur Terre, voilà, il n'est pas simplement dans un monde d'objets, il arrive dans un milieu culturel, il y a eu une évolution culturelle, une évolution de l'espèce humaine. Et donc, par exemple, il arrive dans un milieu où il y a deux aspects qui pour lui sont primordiaux. Il y a les outils que l'évolution et que la culture a produits, par exemple le langage, qui est apparu au milieu de l'évolution humaine, et puis les interactions sociales, parce que l'enfant, il arrive au milieu d'un groupe d'individus quand même. Et donc il disait, par exemple, au niveau du développement cognitif, du développement de l'enfant, tous les savoirs de l'enfant se construisent d'abord grâce à des situations d'apprentissage qui sont guidées par les adultes, qui sont guidées par les autres. Donc, importance primordiale des autres dans l'apprentissage. Et c'est des situations qui sont médiatisées par le langage. Que ce soit les parents au début ou que ce soit les enseignants après, vous savez que le langage, il est présent tout le temps. Vous expliquez tout par le langage. Tout ce que vous faites, en général, vous le réexpliquez, vous le montrez en même temps. Les parents, c'est pareil, logiquement. Et donc, au début, en gros, son idée de l'apprentissage, lui, du développement, c'était un truc en spirale. C'est au début, l'enfant, il apprend, on va dire, on part d'un côté de la spirale, il apprend dans les interactions avec les autres, donc sur un niveau interpsychologique, on va dire, interindividuel. Et puis au fur et à mesure, il va devoir intégrer ces choses-là pour lui, les faire siennes. Donc il va intérioriser tout ce qu'il a appris avec les autres. Donc on parle, on va dire, d'un niveau N de développement, il apprend avec les autres, il passe toujours au niveau N, il intériorise ça, puis après, une fois qu'il a bien intériorisé ça, ben, il doit progresser, donc il doit aller au niveau N plus 1. Pour aller au niveau N plus 1, il ne peut pas le faire tout seul. Il doit le faire guider par l'adulte, donc il va passer sur l'autre niveau. Donc il revient au niveau où il y a l'adulte, qu'il est là pour le guider, il va apprendre des choses au niveau N plus 1. Une fois qu'il maîtrise bien les choses dans les interactions avec les adultes, il va les faire siennes, donc il va les intégrer toujours au niveau N plus 1. Et donc on monte comme ça, et donc c'est l'idée du développement en spirale chez Vygotsky. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une place vraiment prépondérante du langage. Il dit, par exemple, l'adulte, quand il fait ses situations d'apprentissage, ou même quand il se comporte avec l'enfant, il utilise le langage pour expliquer, pour structurer la tâche de l'enfant. Et puis, l'enfant, au fur et à mesure, commence à faire, on va dire, à intérioriser ce procédé-là, d'utiliser le langage. Il va aussi, lui, structurer toute l'organisation de ses actions, toutes ses pensées, grâce au langage. Donc, je dirais, c'est un peu, à nouveau, le « je parle, donc je pense ». Si on regarde, c'est le langage structurerait l'organisation des actions, structurerait la pensée. Donc, le langage aiderait à mieux penser. Donc, c'était l'idée, en gros, de dire, l'enfant, il a d'abord le langage des autres, il commence à le faire sien, donc il va passer au langage égocentrique, dont c'était un des points sur lesquels il s'opposait à Piaget. Puis ensuite, il va faire ce langage intérieur qui nous caractérise tous. Donc, par exemple, il disait, quand l'enfant, il est en train de faire une tâche, puis qu'il dit, alors, je prends mon crayon bleu, je fais un rond, je pose mon crayon, je vais prendre le jaune, et puis je vais colorier comme ça. Quand il est en train d'utiliser ce langage, quand il est en train de faire ses actions, Piaget, il disait, c'est du langage égocentrique qui sert à rien, l'enfant, il parle comme ça, ça n'aide pas, c'est pas de la communication et tout. Vygotsky, il disait, non, il dit, en gros, ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'approprier ce que les adultes font. Quand ils lui donnent les consignes, quand ils disent, bah, tu vas prendre ton crayon bleu, tu vas faire un rond, ou quand ils sont en train de décrire leurs actions. Et puis après, bah, ça va devenir du langage intérieur. L'enfant, il va comprendre qu'il peut parler dans sa tête, parce que ça, au début, il ne comprend pas. Quand on lui dit, est-ce que je suis en train de me dire quelque chose là dans ma tête, puis vous vous arrêtez, il va dire, bah non, tu ne parles pas. L'enfant, après, il va comprendre qu'effectivement, il y a ce langage interne, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Et nous, on le fait aussi, hein, quand on est en train de conduire, et puis qu'on est en train de se dire dans notre tête, bon, bah là, je vais tourner à gauche, après, c'est la deuxième à droite. Ou quand on fait nos courses, et puis qu'on se redit la liste des courses, qu'on se dit, ah bah oui, il faut que je retourne là-bas, il faut que je fasse. On a, nous, ce langage aussi intérieur, qui guide nos actions, puis qui structure nos pensées. En général, quand on pense à quelque chose, on met des mots dans notre tête. Enfin, on se parle intérieurement. Donc, lui, il disait vraiment, il y a une place hyper importante du langage. L'autre idée importante, alors pas obligatoirement pour le développement du langage, mais pour le développement en général, hein, chez Vygotsky, c'était de dire que le développement, il survient donc grâce aux autres, dans les interactions sociales. Quand le milieu donc fournit les occasions à ce que le développement puisse se faire, mais que les demandes de l'environnement se situent à un milieu accessible pour l'enfant. Donc là, c'est la fameuse zone proximale de développement. En général, maintenant, tout le monde a déjà entendu parler de ce concept-là, puisque c'est un concept phare chez Vygotsky qui a été connu assez tardivement en France. Donc la zone proximale de développement, en gros, c'est à mon avis une des notions qui a vraiment chamboulé les choses au niveau de l'apprentissage, par exemple. Comment est-ce qu'on peut la définir? C'est de dire que c'est la distance entre, en gros, ce que c'est faire l'enfant, là où il en est, donc le développement actuel de l'enfant. Donc on mesure ça, par exemple, la capacité que l'enfant a à résoudre seul un problème. Bah, il a bien réussi, il sait le résoudre seul. En gros, bah voilà, il sait ce concept-là, il sait cette opération-là, il sait ces choses-là. Donc la distance entre ça, ce qu'il sait faire tout seul, et puis son développement potentiel. Savoir ce qu'il serait capable de faire s'il était guidé par l'adulte, étayé un peu par l'adulte, ou s'il était en interaction avec des enfants qui sont plus avancés que lui, qui savent faire ces choses-là. Donc on a, en gros, on prend le premier cercle, c'est là où est l'enfant, ce qu'il sait faire tout seul. Le deuxième cercle, un peu plus loin, un peu plus large, c'est bah, là ce que l'enfant il est potentiellement capable de faire, pas tout seul, mais guidé par l'adulte. Donc l'enfant, il sera capable de faire. Donc on le met dans une zone, on va dire, un peu en déséquilibre. C'est-à-dire qu'on le met dans une zone où il ne sait pas faire les choses. Donc il faut absolument que le milieu, donc que les autres, les adultes, ça soit là pour lui fournir l'aide et lui fournir les ressources nécessaires, donc le guider dans cet apprentissage. L'idée, c'est de dire que, justement, il faut être absolument dans cette zone proximale de développement, parce que si on est au-delà de la zone, donc on a nos deux cercles concentrés, on est plus loin. En gros, on est dans une zone qui requiert des capacités et des connaissances que l'enfant n'a pas encore, qui ne maîtrise pas encore et qui sont nécessaires à la bonne progression de l'apprentissage. Si on est en deçà de cette zone proximale de développement, on est dans le premier cercle que je vous avais dit, on est dans un cercle où l'enfant maîtrise déjà ses connaissances-là, a déjà ses capacités-là. Donc si on est au-delà ou en deçà de la zone proximale de développement, en gros, le développement ne peut pas se poursuivre. Donc il faut toujours être dans une zone, toujours en gros partir de ce que l'enfant sait, de ce premier cercle concentrique, mais toujours aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment, je reviendrai à la fin quand je parlerai plus de l'enseignement, parce que c'est vraiment un truc qui, à mon avis, a été important, de théoriser un peu cette idée-là, on doit toujours partir de ce qu'il y a et apporter plus, mais pas trop. Donc c'est toujours être un peu à cheval, je dirais. C'est un peu, justement, elle est difficile à doser, cette zone proximale de développement, parce que les enfants ne sont pas tous au même niveau, sont pas tous... ont pas tous le même premier cercle concentrique, donc ils n'auront pas tous la même zone proximale de développement. Mais à mon avis, elle est très importante. Donc si je continue, Vygotsky, il n'a pas pu continuer longtemps sa théorie, parce que si je vous remets les dates, il est mort à 28 ans, je crois, il est mort très très jeune, juste en Russie. Donc il a été connu très tardivement chez nous. Je dirais un des grands représentants ensuite qu'il y a eu, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, Brunner, qui a repris cette théorie de Vygotsky pour voir justement... on va dire, l'importance du langage, l'importance des apprentissages, donc du rôle des autres dans les apprentissages. Et puis, je dirais que par rapport au langage, il a apporté, lui, un aspect hyper important, c'est l'aspect communication. Parce que si on regarde tout ce qui se faisait avant, c'était en gros, comment l'enfant, il fait des phrases, comment l'enfant, il apprend des mots, il apprend par imitation, ou il connaît les choses, ou... c'est parce qu'il... Il sait que ça, c'est une bouteille, qu'il va pouvoir trouver le mot bouteille. Donc, on était vraiment sur des choses un peu formelles, linguistiques, je dirais, donc les mots, les phrases. Et donc, lui, on va voir, il a apporté tout l'aspect communication. Ce qu'il a montré aussi, c'est qu'il y avait vraiment pas mal de choses dès la naissance et qu'il y avait à nouveau l'importance du contexte familial dans l'émergence du langage. Donc, lui, il a montré le rôle fondamental des premières interactions. Alors, à l'époque, entre la mère et l'enfant, on parlait toujours de la mère, on dirait entre... les adultes qui sont le plus présents autour de l'enfant et l'enfant. Donc le père aussi, il y a des hommes, donc le père est aussi important que la mère. Donc rôle fondamental de ces premières interactions dans l'installation déjà des premières règles de communication. Il disait, par exemple, dans les activités conjointes qu'il y a entre les parents et les enfants, les trucs super rituels, mais dès le début, donc le rituel du bain, le rituel du coucher, quand on nourrit, quand on change, quand... tout ce qu'il y a, en fait, qui va ponctuer la journée de l'enfant, les comportements de l'enfant. L'enfant, il n'est pas inerte. Il réagit. Alors, il réagit avec ses moyens. Des fois, il va pleurer. Des fois, il va sourire. Des fois, il va bouger. Des fois, il va faire des mimiques. Et il disait, en gros, tous ces comportements non-verbaux de l'enfant, ils vont être interprétés par les adultes comme le signe d'une intention de communication que les adultes vont nommer. Oh, tu aimes bien quand je te fais ça, regarde, tu souris, ça te fait du bien. Tu es en train de pleurer, peut-être que tu as couché les salles et tout. Les parents sont toujours en train de parler, toujours en train de mettre du sens sur le comportement non verbal de l'enfant. Alors, j'ai mis un lien avec la synchronie, c'est si vous êtes un peu familiarisé avec la théorie de l'attachement. Parce que, bien entendu, ça veut dire que tout se passe bien entre les parents et l'enfant. Donc, la synchronie, c'était une des notions fondamentales pour ceux qui parlaient de la théorie de l'attachement, pour dire que s'il y a un attachement entre la mère et l'enfant, doit bien se passer, il faut un, disponibilité parentale, que les parents soient disponibles, soient pas accaparés par des soucis personnels, des choses comme ça, et l'autre point c'est la synchronie, en gros que les parents et les enfants arrivent à s'apprendre, à se découvrir, parce qu'on dit qu'on doit tous se découvrir quand on arrive au monde, et qu'ils arrivent à répondre de manière adéquate. Voilà, l'enfant il pleure, et les parents vont tout de suite interpréter ça comme une intention de communication, comme ayant un sens précis, et vont répondre dans ce sens-là, en lui préparant à manger, en le changeant sa couche, en jouant avec lui, en lui faisant un câlin, voilà. Donc en fait, en gros, ce qu'il disait, c'est vraiment, il y a des choses qui se mettent en place dès le début. C'est de la communication. C'est pas du langage oral de la part de l'enfant, mais il communique quand même. Donc c'était aussi pour enlever l'idée du bébé de tube digestif qu'il pouvait y avoir à l'époque. Enfin, un enfant, il est là, il boit, il pleure, il fait dans sa couche et c'est tout, quoi. Ça commençait à montrer qu'il y avait des choses importantes qui se passaient dès les premiers jours, dès les premières semaines. Et donc, il disait, même après, ça continue. Même quand l'enfant commence à parler, toute activité, tout échange entre la mère et l'enfant, entre le père et l'enfant, même entre les enseignants et l'enfant après, ça va toujours s'accompagner de langage, de constructions spécifiques, de mots particuliers que l'enfant va pouvoir donc entendre, mémoriser, reproduire et donc acquérir. Donc l'idée d'imitation, elle est vraie, elle existe, on apprend quand même par imitation. Donc vraiment, importance du contexte social pour les apprentissages. Donc j'ai remis cette définition de Brunner, en gros ce qu'il disait sur le langage, quel qu'il soit, que ce soit du langage oral, du langage écrit, du langage signé, n'importe quoi, le langage, c'est un moyen systématique de communication avec autrui. Et je pense qu'il avait vraiment commencé à mettre l'emphase sur ça. C'est de la communication. Le langage, il ne faut pas oublier qu'on communique. C'est pas simplement dire des phrases avec les bons mots. C'est aussi un moyen d'affecter le comportement des autres. Ils vont répondre à ce qu'on dit. Et la seule manière d'apprendre l'usage du langage, c'est de l'utiliser pour communiquer. Et c'était un nouvel aspect qui est vraiment apparu dans les théories. C'est effectivement, il n'y a peut-être pas que des mots, que des phrases, que des sons. Il y a peut-être aussi l'aspect de communication. Et puis l'autre chose qu'il a apparu, c'est de dire arrêtez avec ce débat, je pense donc je parle, ou je parle donc je pense, c'est les deux. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a une interconstruction de la pensée et du langage. En gros, c'est, oui, je pense donc je parle, mais comme je parle, je pense mieux. Donc, en gros, les deux sont importants. Il y a vraiment un lien entre langage et pensée. Et par exemple, dans les données qu'on a actuellement, on sait qu'un lien entre une capacité dans le langage et une capacité dans le développement intellectuel, un lien très fort au niveau des corrélations qu'on peut avoir, c'est le développement du lexique, par exemple, et puis le développement des capacités de catégorisation. On sait qu'il y a un lien hyper fort. On ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est l'un qui entraîne des choses sur l'autre ou l'autre qui entraîne des choses sur le premier? A priori, c'est dans les deux sens. Donc, en gros, les enfants qui ont les meilleures capacités de catégorisation, c'est les enfants qui ont aussi le lexique le plus développé. Les enfants qui ont le lexique le plus développé, ils ont ensuite des meilleures compétences en catégorisation. On sait aussi qu'il y a le fameux phénomène d'explosion lexicale quand ils ont 18 mois. En gros, les enfants, ils se mettent à produire un nombre incroyable de mots nouveaux par jour. Et quand on regarde, au même moment, si on fait des expériences de catégorisation, c'est là où les capacités de catégorisation commencent à émerger et à devenir assez fortes. Donc, il y a des liens, effectivement, entre pensée et langage, mais dans les deux sens. Donc, il faut les prendre en compte. Donc, il dit, l'enfant, il apprend à parler en apprenant à penser, autant qu'il apprend à penser, à raisonner, en s'exprimant, en communiquant avec les autres. Donc on a vraiment les deux qui sont importants. Et il disait, comme c'est de la communication, il y en a un qui parle, l'autre écoute et rebondit et lui retourne des choses. Et donc l'enfant, bah, quand il exprime des choses à l'autre, l'autre, quand il va lui répondre, quand il va lui faire des remarques, quand il va reformuler, quand il va donner son point de vue, quand il va apporter plus d'informations, il va permettre à l'enfant de mieux penser les choses, de changer sa manière de dire, de changer sa manière de penser. Donc c'est vraiment un lien fort entre pensée et langage, mais qui va passer par la communication, donc un lien fort du contexte social. Et puis je dirais, après Brunner, en gros, c'était justement comme il a apporté cette idée de vraiment la communication, c'est un truc hyper important, il y a eu justement toutes les approches, au niveau de l'étude du langage, les approches pragmatiques, donc d'étudier justement la fonction de communication du langage. De dire, ok, c'est vrai, c'est bien d'apprendre, d'étudier ce que dit l'enfant, formellement, texto. Il dit des phrases avec des mots, avec tel son. C'est bien. Mais il faut aussi s'intéresser à qui il le dit, comment il le dit, pourquoi il le dit, qu'est-ce que ça implique pour lui, qu'est-ce que ça entraîne pour les autres. Donc tout l'aspect de communication, en fait. Alors la grande théorie qu'il y a dans cette approche pragmatique, c'est la théorie des actes de langage. C'est-à-dire, effectivement, quand on parle, on ne fait pas simplement que décrire quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on voit. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être sous-entendues, informelles, qui peuvent être impliquées par ce qu'on est en train de dire. Et donc, c'était de montrer aussi que l'enfant, c'est vrai, il doit apprendre des choses linguistiques formelles, la phonologie, le lexique et la syntaxe. Il doit aussi acquérir des choses relatives aux connaissances sociales, relatives aux situations, relatives aux autres. Parce que quand on parle dans une vraie situation de communication, on doit tenir compte du contexte dans lequel on est. On ne parle pas de la même manière selon l'âge de notre interlocuteur. On ne va pas parler pareil à un petit enfant qu'à un adulte. Et vous savez, par exemple, le truc qui se retrouve dans plus ou moins exagéré dans toutes les sociétés, ce fameux truc qu'on a, nous, adultes, quand on parle à un bébé. Quand on se met à faire ça, on ne va pas le faire à n'importe qui. On va le faire à un enfant d'un certain âge. On ne va pas le faire à tout le monde. Heureusement. C'est très impressionnant aux États-Unis, je pense, parce que j'étais allée là-bas. Eux, ils le font encore plus que nous. Eux, quand ils parlent aux parents des enfants, par exemple, ils parlent comme ça aussi. Donc, c'est assez surprenant. Mais donc, on s'adapte. L'intonation, le rythme, on sait qu'on s'adapte pour les enfants qui sont plus jeunes au niveau du vocabulaire. On va faire des phrases qui sont plus courtes. On s'adapte. On s'adapte aussi selon le statut des gens. On ne va pas parler de la même manière à notre conjoint, notre copain ou notre chef. Voilà, c'est pas la même chose. On s'adapte aussi au niveau des croyances, des connaissances des autres. On parle de quelque chose, on sait que les autres ne connaissent rien, bon, on va être quand même plus explicite, on va faire des mots plus simples, on va redonner des définitions. Voilà. Alors que si on sait que les personnes en face de nous, elles connaissent déjà bien ce domaine-là, on va aller plus loin, on va prendre moins de temps pour expliquer certaines choses. Au niveau des croyances, par exemple, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous êtes en train de parler d'un truc politique ou n'importe quoi, vous savez par exemple que la personne face à vous partage, ou vous croyez que la personne face à vous partage votre opinion. Vous allez plutôt être dans un échange où vous allez vous conforter, décrire vos choses, assumer des choses par rapport à ce que vous pensez, parce que vous savez que l'autre va aller dans votre sens. Alors que si vous savez que l'autre, il ne partage pas vos opinions, vos croyances, vous allez plutôt être dans un discours d'argumentation, de confrontation. Vous n'allez pas utiliser le langage de la même manière. Donc effectivement, parler, c'est pas décrire bêtement quelque chose, c'est communiquer. Et donc pour vous montrer que parler, il y a plein de choses derrière, et donc l'enfant, il doit comprendre ça, il doit acquérir ça, parce que l'enfant au début, il est sur le texto, il est vraiment sur... voilà. Déjà, l'enfant au début, il comprend pas que, je vous dis, que pour lui, c'est tout ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit. On ne peut pas penser quelque chose qu'on n'a pas dit, par exemple. Donc, déjà ça. Mais après, tout ce qu'on dit, ce qu'on dit, ça implique simplement ce qu'on a dit. Ça implique pas autre chose. Il n'est pas capable de faire d'inférence au début. Alors qu'il y a plein de choses qui peuvent être sous-entendues. En fait, il y a trois aspects dans le langage. Aspect locutoire, le truc, tout bête. On dit avec une phrase, on a dit quelque chose. On a produit une phrase qui a une signification. On a choisi ces mots-là, on les a dit dans ce sens-là, avec ces sons-là, cette intonation-là. Voilà. On a dit quelque chose, je vous dis, un truc classique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fait chaud dans cette pièce. Je peux simplement décrire un état qu'il fait chaud dans cette pièce. Ensuite, on a l'aspect perlocutoire et l'aspect illocutoire. Donc on a d'autres aspects à cette phrase-là. Alors pour cet exemple, je vais d'abord vous donner l'aspect illocutoire. L'aspect illocutoire, c'est justement la fameuse fonction de communication. On communique en général plus que ce qu'on a dit formellement. Parfois on communique des choses totalement différentes que ce qu'on a dit formellement, parce qu'on peut utiliser l'ironie, on peut utiliser on communique aussi des choses, on va dire l'aspect illocutoire, c'est aussi tout ce que ça implique pour nous. Quand on dit quelque chose, par exemple, alors on va utiliser, alors après je vous ai mis des termes, je ne suis pas rentrée dans la théorie pragmatique, par exemple les assertifs, c'est que quand on dit quelque chose, ça implique qu'on s'engage, nous, en tant que locuteur, sur la véracité de ce qu'on est en train de dire. En tant que l'enfant ne comprend pas ça, allez-y pour lui faire comprendre la différence entre un mensonge et puis pas un mensonge. Tant que l'enfant n'a pas compris qu'effectivement, quand on dit quelque chose, qu'on s'engage sur la vérité, donc on est en train d'apporter une information aux autres qui est juste, ça c'est un aspect qu'il y a dans l'illocutoire. L'autre aspect, les directifs, des fois on dit des choses qui en fait sont plutôt... vont plutôt montrer notre envie de provoquer quelque chose chez l'autre, de lui faire faire quelque chose. Les promissifs, c'est que quand on dit quelque chose, on peut aussi nous engager, nous, locuteurs, sur une conduite dans l'état futur. Donc, dans l'aspect illocutoire, il y a plein de choses, il y a plein d'inférences, en fait. Il y a peut-être tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut vraiment dire, mais qu'on n'a pas dit formellement. Donc, dans mon fameux, pour l'exemple tout bête, il fait chaud dans cette salle, peut-être que dans l'aspect illocutoire, c'est... ça vous dérangerait si on ouvre une fenêtre? Sauf que je ne vous ai pas dit, ça vous dérangerait qu'on ouvre une fenêtre? C'est un exemple. Ce sera plutôt, ça vous dit qu'on fasse une pause tout à l'heure pour prendre l'air? L'aspect perlocutoire, le troisième aspect, c'est qu'en fait, donc, ça c'est ce qu'on dit texto, ça c'est ce que ça implique vraiment pour nous, de notre part, qu'est-ce qu'on sous-entend vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment communiquer, et puis qu'est-ce que ça implique pour nous dans le fait de dire ces phrases-là. L'aspect perlocutoire, c'est plutôt qu'est-ce que ça implique pour les autres. Parce que justement, parler, c'est un acte de parler. Et on parle dans une situation de communication. On parle à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Nos énoncés vont provoquer des effets sur les autres. Ça peut être provoquer des effets sur les sentiments des autres, sur les croyances des autres, sur les connaissances des autres, sur les pensées des autres, mais aussi sur les comportements des autres. Donc, mon « il fait chaud dans cette salle » peut sous-entendre « j'aimerais bien qu'on ouvre une fenêtre », peut sous-entendre aussi en perlocutoire, mais il n'y a pas quelqu'un qui voudrait bien se lever pour aller ouvrir cette fenêtre. Voilà, c'est les trois aspects. Donc l'enfant, au début, il va être sur le locutoire. Hein. Mais il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc le truc classique à un enfant, quand on utilise l'ironie... Ouais.
L'aspect, il y a C'est à quel âge que l'enfant commence à comprendre ça?
Ça dépend en fait des aspects. Ça peut commencer vers 2-3 ans pour certains aspects. Ça peut aller très tardivement. Par exemple, les mensonges, les promesses, c'est assez difficile pour les enfants de les comprendre au début. En tout cas, avant 5 ans, c'est assez difficile. Mais il y a des choses, par exemple, sur les demandes. Donc, les choses, je dirais, les plus fréquentes ou qu'on peut facilement voir. Donc, les demandes, par exemple, quand on va dire à un enfant « Mais t'as pas vu mes clés ?» Nous, sous-entendu, c'est « Si tu les as vues, est-ce que tu peux me les ramener ?» Par exemple, l'enfant va comprendre, on va dire peut-être vers 3 ans, il va pouvoir commencer à comprendre des choses comme ça un peu afférentielles. Et à utiliser lui aussi, vers 3-4 ans. On ne peut pas vous dire « ça a l'air bon » ou « ça sent bon » pour réussir à obtenir un bout de gâteau que vous étiez en train de cuisiner. Donc ça peut commencer, on va dire, vers 2-3 ans pour certains trucs assez précis, ou comprendre des demandes indirectes, simplement en utilisant des questions, la politesse. Au début, l'enfant, il utilise des choses directes. C'est « donne-moi un gâteau ». Voilà, je veux un gâteau. Puis après, il va comprendre qu'il y a des demandes un peu plus indirectes. Donc c'est « est-ce que tu pourrais me donner un gâteau ?» Lui, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il ne veut pas que vous disiez oui ou non. Il ne vous laisse pas le choix. Lui, il veut son gâteau. Mais il va utiliser une formule un peu plus indirecte. Donc, il commence à comprendre qu'on peut dire ce qu'on veut d'une manière. Ça commence vers 2-3 ans. Ça. Après, je dis, il y a certains trucs sur les demandes 3-4 ans. Par exemple, les promesses, ça va être plus tardif. Et ça dépend, je vous dis, il y a plein d'actes différents. Ça dépend de l'âge. Mais il y en a qui peuvent aller encore assez loin. En fin de maternelle, ils ne comprennent pas tout encore, quoi. Mais je dirais, avant 5 ans, en tout cas, par exemple, c'est dur d'utiliser de l'inférence pour les enfants. Parce qu'ils vont vraiment être sur l'aspect précis de ce qu'on a dit. Le truc classique, quand on, par exemple, utilise l'ironie ou le sarcasme, les enfants, ils ne comprennent pas ça. Un enfant qui marche chez lui avec ses bottes pleines de boue, il y a la mère derrière qui dit « Mais ouais, vas-y, continue !» Sous-entendu, non mais tu vas arrêter et enlever tes bottes, bah, l'enfant il va dire, bah ouais, vas-y, je continue. Et il va continuer à le faire et il va se faire gronder. Puis il va dire, bah pourquoi elle dit, non mais tu arrêtes, bah t'avais qu'à me le dire. Ou quand on lui dit le truc dans une pièce, oh mais regarde, mamie, elle a froid. Donc sous-entendu, il va fermer la fenêtre, l'enfant il va dire, bah ouais, elle a froid, bah oui, il fait froid. Il va falloir un peu de temps avant qu'il comprenne, bah, dire, bah donc va fermer la fenêtre, ah bah fallait le dire. C'est le fameux truc quand il vous dit, bah fallait le dire. Ils vous le disent tous à un moment ou à un autre. C'est parce qu'en fait, on utilise de l'inférence. Alors que les enfants, au début, ils sont sur le texto. Moi, je l'ai vu en stage sur la prise de parole, ce qui m'avait fait beaucoup rire. Une stagiaire qui, voilà, essayait d'être avec des enfants, en moyenne, c'est petit moyen. Et puis, donc, elle faisait une séance de langage, et il y avait un enfant qui était tout le temps, dès qu'elle posait une question, à peine elle avait fini, il était déjà en train de répondre, debout. Vraiment, il voulait parler, ça c'est le problème, les grands parleurs, quand ils veulent y aller. Et donc, à un moment, pour elle, c'était évident, mais elle lui dit, elle pose une question, il commence à répondre tout de suite, à se mettre debout, puis elle lui dit, mais on lève la main pour parler. Ah, ben, il a levé la main, puis il a continué à faire son truc. Et elle me regarde, puis elle me dit, mais il s'est moqué de moi. Je fais, non, on en reparle après. Et donc, je lui dis, ben, voilà, on lève la main pour parler, nous, ce qu'on sous-entend, donc on lève la main quand on a envie de parler, et en plus, on attend qu'on nous donne la parole. Donc elle, après, on en parle, elle réessaye après, puis elle dit, maintenant je vais faire un effort, je vais bien leur redire. Donc elle dit, si tu veux parler, tu lèves la main pour parler. Elle a juste oublié le « et tu attends que je t'interroge ». Donc là, elle a posé sa question, et puis l'enfant, il l'a regardé, puis il a bien levé la main d'abord, et après il a parlé. Donc les enfants, ils ne font pas de l'inférence au début. Ils sont vraiment, même Piaget, il disait dans tous leurs apprentissages, ils sont sur le concret au début. C'est vraiment donc le concret dans le langage, c'est les phrases qu'on a prononcées. Et donc voilà, on va dire pour comprendre certaines choses dilocutoires, il faut vraiment, on en parlera tout à l'heure, avoir la théorie de l'esprit, déjà comprendre que nous et les autres, on a des connaissances, on a des croyances, on a des choses qui vont guider nos comportements, nos réactions, que ça peut ne pas être la même chose. Et ça, c'est 4 ans et demi que c'est atteint. Donc je dirais, avant 4 ans et demi, c'est très difficile, hormis des choses plutôt, la politesse, les formules de demande un peu plus indirectes. Après, bon, ça dépend des enfants aussi. Les enfants, c'est très variable. C'est pour ça que les âges, j'en mets rarement, parce que c'est tellement variable. Alors, je dirais, j'arrive à la fin de ma partie un peu théorique, apprendre à parler, c'est un truc super compliqué, donc c'est pas facile de faire un cours non plus sur une intervention en 3 heures sur l'apprentissage du langage. Alors, l'acquisition du langage, c'est un phénomène complexe. Je dirais, pour qu'un enfant, il apprenne à parler, hein, oui, il manque les guillemets, c'est pour ça qu'il y a des crochets. C'est une phrase de Brunner que j'avais repris. Les crochets, c'est des choses que j'ai rajoutées, moi. Pour qu'un enfant apprenne à parler, il a besoin, effectivement, d'acquérir, on va dire, les aspects formels. Il a besoin d'acquérir la syntaxe. Et effectivement, qu'il dise des phrases correctes, compréhensibles, dans le bon sens, parce que sinon, on ne va pas comprendre. Faut aussi que ce qu'il dit, ça ait un sens. Donc, il ait choisi les bons mots, que le sens qu'il met sur ce mot-là, ça soit le même que nous, on met sur ce mot-là. Faut aussi que ça soit compréhensible, dans le sens où peut-être qu'il a les bonnes phrases, les bons mots, mais s'il prononce pas les bons phonèmes, on va pas non plus se comprendre. Ou s'il articule pas bien, on va pas se comprendre. Donc, il y a effectivement tous les aspects formels linguistiques. Faut aussi qu'il ait une intention de communication, parce qu'on communique pour dire des choses, des fois différentes de ce qu'on dit formellement. On communique pour faire des choses, ça implique des choses par rapport à nous, à ce qu'on va faire. Et puis on communique aussi des fois pour faire quelque chose aux autres. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de complexe, le langage. Et l'acquisition du langage, c'est un domaine qui est super vaste. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les débats qu'il peut y avoir, alors j'ai mis les débats originels, par exemple, inné, acquis, pensée avant le langage, ou langage avant la pensée, tout ça, à mon avis, c'est stérile et dépassé. C'était bien qu'il y ait ça au début, parce que ça a permis aux gens d'approfondir, je dirais, un aspect du langage comparé à un autre. Mais à mon avis, il y a du bon dans toutes les théories. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est pour ça qu'il faut d'autres théories, mais il y a du bon dans toutes les théories. Il y a des choses qui sont vraies dans toutes les théories. Donc maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est plutôt d'envisager toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les théories plutôt que de les opposer. Donc je dirais la conclusion de cette partie théorique, c'est de vous dire, vous, quand vous allez, par exemple, déjà sortir d'ici, il ne faut pas vous dire, moi je suis d'accord avec un tel, et puis les autres, par contre, ils ont tout faux. Non. C'est-à-dire, il y a peut-être du bon dans chaque truc. Donc de ne pas avoir de dogmatisme théorique. Et donc même, par exemple, sur vos lectures, sur le choix des formations, le choix de conférences, des trucs comme ça, de ne pas obligatoirement choisir tout le temps le même aspect, parce qu'on apprend vraiment beaucoup des autres. Et l'idée, ce serait de faire la super méga théorie. Tous les chercheurs, on rêve de le faire, à la rigueur, quoi. Qui mettrait tout le monde d'accord, mais qui prendrait un peu de tout partout. Donc, pas de dogmatisme théorique, mais de l'éclectisme théorique. C'est aussi un message à faire passer à vos stagiaires, par exemple. Quand ils disent, par exemple, Piaget, il a tout faux. Ben non, Piaget, il n'a pas tout raison, mais Piaget, il n'a pas tout faux non plus. Mais il a raison sur certains trucs. Et donc, je finirai cette partie théorique. En début, on commence avec la définition. Je finis avec la définition. Il y en a plein. Vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, encyclopédie, vous aurez des définitions différentes. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle reprend justement plusieurs choses que je vous ai dites depuis tout à l'heure. Ce serait dire que le langage, c'est la faculté d'expression de la pensée, donc le lien avec la pensée, et la faculté de communication entre les hommes, qui est mise en œuvre au moyen d'un système de signes. Donc là, c'est le langage en général. Si on prend le langage oral, le système de signes, ce sera la langue orale. J'aime bien cette définition parce que justement elle met en avant ces deux aspects qu'il y a à prendre en compte. Vous en êtes probablement plus conscient par exemple que les stagiaires que je vois ou les étudiants que je vois dans le master. C'est qu'en général quand on pense acquisition du langage, on pense acquisition du lexique, de la syntaxe, de la phonologie. Donc le système de signes, la langue, les aspects formels. Tout ça, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier l'aspect de communication, tous les aspects pragmatiques du langage. Pourquoi on parle? Qu'est-ce que ça implique? Comment on parle? À qui? Voilà, et donc, l'importance de prendre en compte la communication. Et donc, juste pour montrer que ça ne sort pas de n'importe où et puis que ça a des implications, je vous ai juste sorti l'extrait du BO de juin 2008 qui disait que l'objectif essentiel de l'école maternelle, c'est l'acquisition d'un langage oral riche, organisé, compréhensible par l'autre. Le langage oral riche, en général, c'est l'aspect lexical qu'on met derrière. Organisé, c'est l'aspect syntaxique qu'on met derrière. Le compréhensible par l'autre, certains étudiants, par exemple, le réduisent à donc bien articulé, bien prononcé, donc à l'aspect phonologie. Mais le compréhensible par l'autre, c'est aussi l'aspect communicationnel, être adapté à l'autre, savoir se faire comprendre par l'autre, savoir prendre en compte ses croyances, ses connaissances, qui sait, ce qu'il voit, pour réussir à être, savoir parler de manière, quand on est simplement en train de décrire ou d'argumenter ou de justifier. Donc de prendre en compte, d'être vraiment compréhensible, on verra que c'est vraiment l'aspect communication. Donc il faut prendre en compte ces deux aspects-là. On avance un peu dans le développement, puis on fera une pause après. Alors là, je vais essayer d'aller un peu vite, parce que c'est plus la fin après qui est plus intéressante pour vous, mais je pensais que c'était important quand même de vous redonner les grandes étapes du développement du langage oral, vous refaire un peu, on va dire, un peu des repères, et puis vous montrer aussi que dès la naissance, il y a pas mal de capacités des enfants vis-à-vis du langage. Alors je dirais que tout va commencer avec la communication, ensuite on va avoir un développement plutôt de la phonologie, près du lexique, après de la syntaxe. La pragmatique, elle commence, on va dire, elle est étudiée à côté, donc on va dire, elle va suivre un peu tout ça. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ont acquis des trucs en phonologie, ils n'acquièrent plus rien une fois qu'ils sont passés au lexique. Ils vont continuer à travailler sur de la phonologie. Et même si le lexique après se met en route, une fois que la syntaxe se met en route, ils ont encore des progrès à faire en lexique. Donc c'est plutôt un aspect de comment ça commence à émerger, mais après ils doivent tout travailler. Alors tout commence avec la communication. C'est pas des tubes digestifs, les petits bébés. Et ils sont pas, c'est pas des ardoises vierges, comme disaient les behavioristes. Dès les premiers jours de vie, je dirais qu'on voit déjà des capacités très précoces. Certains vont dire innées, parce que c'est dès les premiers jours de vie, sauf qu'on sait que l'enfant, il entend des choses quand il est dans le ventre de sa mère, donc ça peut être des choses qu'il a acquises en prénatal. En tout cas, on sait que dès les premiers jours de vie, dès les premières heures de vie, même pour certaines études, ils ont des capacités très précoces vis-à-vis du langage. On sait déjà qu'à la naissance, par exemple, ils préfèrent écouter. Alors, s'ils préfèrent écouter, ça veut bien dire qu'ils arrivent à distinguer ça d'autres choses et qu'ensuite, ils préfèrent écouter ça par rapport aux autres choses. Ils préfèrent écouter la parole humaine, comparée à de la musique, à des bruits de l'environnement, à des bruits d'animaux, des choses comme ça. Ils vont préférer écouter la parole humaine. Ils savent aussi, ils savent aussi reconnaître la voix de leur mère. Donc, à quelques jours de vie, en général, des expériences qui sont faites quand ils ont 2 jours de vie. Quand on dit que c'est dès la naissance, on va quand même épargner la maman et l'enfant dans les heures qui suivent l'accouchement. Mais en général, des fois, dans certains hôpitaux, dans certaines maternités, il y a un petit labo de chercheurs dans un coin qui monte dans les chambres pour leur dire « Vous voulez participer à une étude ?» Donc, on peut avoir des données comme ça à 2 jours de vie. On sait qu'ils préfèrent et qu'ils reconnaissent donc la voix de leur mère. La voix du père, c'est rapide, mais un peu plus tard, parce qu'elle est plus déformée, en fait, quand ils entendent en prénatal. On sait aussi qu'ils préfèrent, donc c'est-à-dire qu'ils savent la distinguer, leur langue maternelle comparée à d'autres langues. Par exemple, les petits bébés français, ils préfèrent écouter le français comparé à si on leur fait écouter de l'anglais ou du japonais, par exemple. Donc ils ont effectivement des capacités précoces vis-à-vis du langage, ce qui veut dire que c'est ça quand on dit qu'il y a peut-être cette prédisposition innée à traiter le langage, à cette prédisposition innée pour apprendre une langue humaine, parce qu'effectivement, il y a vraiment, on dirait qu'il y a dès la naissance une spécification qui se fait pour le langage comparé au reste. Et puis, quand même des capacités de discrimination qui sont assez importantes. Réussir à reconnaître la voix de leur mère comparée à la voix d'autres femmes, c'est déjà pas mal. Puis leur langue maternelle comparée à d'autres langues, c'est pas mal aussi. À côté de ces capacités précoces vis-à-vis du langage, en gros, les enfants, ils ont aussi des capacités, motrices, des choses qui sont de l'ordre du réflexe, mais donc comportemental, mais qui vont être, à mon avis, les bases sensorielles des interactions qui se mettent en place avec les parents, et donc les bases sensorielles de la communication qui va se mettre en place. Par exemple, on sait que les enfants, à la naissance, sont attentifs aux visages. Ils vont fixer des visages humains, comparés à d'autres choses, ils vont vraiment les fixer. On sait aussi, par rapport au langage, qu'ils regardent la bouche. Quand on est face à eux et qu'on leur parle, en fait, ils fixent sur la bouche. S'ils comprenaient que c'est par la bouche que les choses, ce son qu'ils entendent sortent. On sait qu'ils tournent la tête aussi vers une personne qui parle. Une personne qui est dans un coin, qui parle, ils vont s'orienter vers cette personne-là. Ils sont capables de contact visuel, même si ça ne dure pas très longtemps, ils sont capables de vous fixer, de vous regarder dans les yeux. Ils sont très sensibles au contact physique, donc ils réagissent au contact physique de manière adéquate, en se calmant, en rigolant, en bougeant. Voilà. On sait aussi, par exemple, qu'ils reconnaissent l'odeur de leur mère. Donc ils vont s'orienter vers l'odeur de leur mère. Tout ça, donc, c'est des réflexes, en tout cas des capacités précoces, qui font que, voilà, imaginez pour les parents, quand ils sont en train de vivre ça, c'est waouh. Donc on a envie de rentrer en communication avec ce petit. C'est pas un tube digestif, effectivement. Il me regarde, il me reconnaît, il se tourne vers moi, il se blottit contre moi. Et pour les parents, quand tout se passe bien, donc quand la théorie de l'attachement, on va dire, dit que tout se passe bien, c'est des choses qui sont vraiment primordiales dès les premiers jours de vie. Donc, je dirais, c'est vraiment les débuts de socialisation, débuts de communication. Donc, tout ça, c'est important, mais donc, les adultes, les parents, vont vraiment avoir un rôle important dans l'émergence de cette communication. Parce qu'au début, c'est une communication qui n'est pas intentionnelle de la part de l'enfant. Il pleure parce qu'il a faim, il n'est pas en train de vous dire, au début, la première fois qu'il est en train de faire ça, il n'est pas en train de vous dire « Hé, j'ai faim, donne-moi à manger ». Il y a juste une réaction physiologique de « j'ai mal et je pleure, quoi, j'exprime ça ». Il ne sait pas qu'il est en train d'exprimer quelque chose qui a vraiment un sens. Par contre, les adultes, eux, logiquement, quand ça se passe bien, vont interpréter les cris, les pleurs, les gestes, tous les comportements de l'enfant pour lui donner un sens. Donc, ils donnent une finalité de communication à tous les comportements de l'enfant. Donc c'est eux qui vont interpréter ça, c'est eux qui vont donner du sens. C'est l'entourage qui va interpréter les pleurs de l'enfant comme un message et qui va y répondre. Ah, il pleure. Ah, il a probablement faim. Bon, bah, je lui fais un biberon, je lui donne le sein. Et s'il a répondu de manière adéquate, bah, l'enfant va à force commencer à se dire « Ah, j'ai exprimé quelque chose, parce que quand je l'exprime, ça, en général, j'ai la bonne réponse de la part de mon environnement. » Donc au début, c'est non intentionnel, mais si les choses se passent bien, donc c'est la fameuse synchronie, si rapidement les parents arrivent à interpréter les messages non-verbaux de l'enfant et à donner la bonne réponse régulièrement, rapidement, ça va devenir une communication intentionnelle de la part de l'enfant. Il va comprendre très rapidement les enfants. C'est peut-être ça une capacité qu'on a aussi peut-être innée, c'est la capacité d'associer. C'est pour ça que le béhaviorisme, il y a des trucs vrais. La capacité d'associer un comportement qu'on a fait avec une réponse de l'environnement, c'est vrai. Et ça, ça marche très vite. On le fait dans les expériences avec les bébés. Hein. On utilise ça. Très rapidement, ils arrivent à faire cette association-là. Si les parents ont bien répondu, très rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent exprimer des choses et que les parents répondent bien. Donc, ils sont en train d'exprimer quelque chose. Donc, la communication va devenir intentionnelle. Le bébé va vite devenir très actif dans l'établissement des interactions avec son entourage. Il va très vite comprendre aussi qu'il peut inciter l'adulte à modifier ses comportements pour réussir à obtenir ce que lui a envie. Il comprend très vite que quand il pleure, il y a les parents qui arrivent, qu'ils le prennent dans ses bras, donc il ne faut pas tomber dans le piège, avec le fameux renforcement, de tout le temps répondre comme ça, ce qui n'est pas évident. Donc au début, il y a tous les pleurs, les cris, les sourires après sont aussi interprétés par les parents, les mimiques, et puis plus tard, je dirais, une première vraie communication intentionnelle, où vraiment on peut dire que l'enfant, on voit qu'il communique clairement avec une intention évidente, c'est quand il pointe les gestes, le fameux pointage. Ils ne savent pas encore dire tel objet, ils ne savent pas encore dire ramène-moi ce paquet de mouchoirs, et ils vous font ils savent très bien se faire comprendre. Donc ça, il faut, c'est là qu'on voit le rôle important, on va dire, du développement social, relationnel aussi avec les parents, parce que c'est eux qui vont être à la base de l'émergence du langage, de la communication. Donc il y a plein de choses au début, hein. c'est pas un tube digestif. Donc le bébé, en gros, il naît avec ce besoin de contact humain. Peut-être ça aussi qui est inné, l'aspect communication. Et il va rapidement former des liens émotionnels particuliers avec les adultes de son entourage. Donc ça, c'est le lien avec la théorie de l'attachement, effectivement, qui dit que c'est vraiment, il y a des choses, il y a une période critique qui va être les deux premières années de l'enfant, où l'attachement avec, on va dire, les figures privilégiées, donc en général la mère et le père aussi, ça va être très important pour la suite de son développement, que ce soit au niveau du développement du langage, de la communication et tout le reste. On sait que ça a des impacts sur le développement cognitif, développement social, développement de la personnalité. C'est vraiment un truc, une théorie qui est très très importante. Alors, à la naissance, on va dire, il y a tout cet aspect-là, l'aspect communication. Si on regarde les aspects plus formels, plus linguistiques du langage, ils ont aussi pas mal de capacités. En tout cas, ils sont beaucoup plus doués que nous au niveau de la phonologie, par exemple. Alors, la phonologie, donc les enfants, ils doivent acquérir, ils doivent découvrir quels sont les sons qui sont pertinents dans leur langue maternelle. En gros, ils doivent comprendre que quand on leur parle du bain et quand on leur parle du pain, on ne parle pas de la même chose. Parce que bain et pain, ça se ressemble, mais il y a un son qui diffère au début, il y a un « be », il y a un « peu ». C'est des phonèmes dans notre langue maternelle, donc ça veut dire que bain et pain, c'est des sens différents. Donc l'enfant, il arrive à comprendre que dans ce qu'il entend, il y a des sons qui sont pertinents, donc il y a les phonèmes. Donc les phonèmes, c'est la plus petite unité distinctive à l'oral, la plus petite unité sonore qui permet de distinguer deux mots entre eux, donc qui ont deux sens différents. Donc on a 37 phonèmes en français, il y a une centaine de phonèmes qui existent dans le monde. Chaque langue va avoir son stock de phonèmes. Par exemple, nous, le R et le L, c'est bien des phonèmes. On a bien roi et loi. C'est bien deux mots qui sont différents, qui se distinguent que par ce seul son, qui ont bien deux sens différents. Donc le R et le L, c'est bien des phonèmes dans notre langue. En japonais, par exemple, R et L, ça n'existe pas, la distinction. Donc R et L, pour les japonais, c'est la même chose, c'est R. Vous apprenez un mot français à un japonais qui contient un R et un L, il va prononcer que des R. Comme on leur apprend de l'argot, vous voulez leur apprendre relou, ah c'est relou, il va vous faire ah c'est relou. Non, c'est relou, il va vous faire relou. En gros, ils ne sont pas capables d'entendre cette différence entre le R et le L, donc ils ne sont pas non plus capables de la produire. Et nous, c'est pareil. Il y a des phonèmes qui existent dans des langues et nous, on est incapable d'entendre ce phonème-là comme les natifs l'entendent et on est donc incapable de les produire. Le fameux TH en anglais, c'est un vrai phonème en anglais, en américain. Nous, ça n'existe pas. Donc, en gros, on se débrouille avec ce qu'on a, avec ce qu'on maîtrise, c'est notre langue maternelle. Donc, il y en a qui vont plutôt faire des E, il y en a qui vont plutôt faire des D. Mais en gros, on ne fait pas le vrai que je ne sais pas faire. Je ne suis pas bilingue anglais. Voilà, vous voyez le film avec Bakri qui est en train de faire le D. Eh bien, il ne le fait pas bien non plus parce que ce n'est pas un vrai bilingue. Donc, on a vraiment l'enfant, voilà, il va devoir apprendre quels sont les sons qui sont pertinents dans sa langue maternelle. Alors, au niveau perception, en gros, je vous dis qu'ils sont plus doués que nous parce qu'à la naissance, il y a des études qui le montrent. Je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les études. Si on a du temps à la fin, je pourrais vous en parler. Mais on sait qu'à la naissance et pendant plusieurs mois, les enfants sont capables de percevoir tous les contrastes phonétiques qui existent dans toutes les langues du monde. En gros, ils sont capables de discriminer les phonèmes de toutes les langues du monde. Même des phonèmes qui n'existent pas dans leur langue maternelle, quand on leur fait entendre un phonème et un autre phonème de la langue, même s'ils se distinguent que sur des petits traits, on va dire, ils sont capables de les distinguer. En gros, perceptivement, ils sont très très doués, les enfants. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre. Alors, on dit qu'ils apprennent soit par oubli, soit par sélection. Donc, en gros, on va dire au début, ils savent traiter tous les phonèmes de toutes les langues. Puis, au fur et à mesure, ils vont se centrer. Donc, ils vont sélectionner ce qui est le plus pertinent pour eux ou oublier ce qui n'est pas pertinent. Donc, ils vont se centrer sur ce qu'ils entendent. Donc, ils vont devenir très doués comme nous pour leur langue maternelle et très nuls. On dit qu'on devient sourd, en fait. Sourd aux phonèmes des autres langues, ils ne vont pas être capables. Donc les petits japonais, eh ben, quand ils sont tout petits, quand ils ont quelques mois, ils sont capables de distinguer, on leur fait entendre ra et la, ils savent faire la différence, ils entendent qu'il y a une différence, et une fois qu'ils ont passé un an, on leur fait entendre ra et la, et eh ben là ils n'entendent plus de différence, pour eux c'est la même chose. Donc les premiers indices justement de cette influence de la langue maternelle, c'est aux alentours de 6 mois qu'on commence à le voir en perception, on voit qu'ils commencent à avoir du mal à faire quelques distinctions au niveau des voyelles par exemple, c'est plus tard au niveau des consonnes, et en gros à un an les enfants sont spécialisés pour le traitement de leur langue maternelle comme nous adultes, ils se comportent de la même manière que nous, donc ils n'entendent plus des différences qui ne sont pas présentes dans leur langue maternelle, ils sont très doués pour percevoir des différences entre des vrais phonèmes. Alors ça ne veut pas dire que par exemple c'est fini pour apprendre une autre langue. On va dire s'il y a un an ils sont spécialisés, voilà, au niveau des bilingues ou des choses comme ça. La période critique dans le langage, surtout pour la phonologie, c'est 7 ans, on dit en gros. C'est-à-dire que si vous apprenez, parce qu'au début, le cerveau, il est très plastique, il est capable, parce que là, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont activées, il y a des zones qui sont éteintes, il y a des connexions qui sont faites, des réseaux de neurones qui sont créés, voilà, dans le cerveau, il y a plein de trucs qui se passent. Mais le cerveau, il est plastique. Donc même s'il y a une zone, au début, pour le langage, donc même s'il y a une zone qui s'est éteinte, bah, elle peut se rallumer. Même s'il y a des connexions qui ne sont pas faites, elles peuvent se refaire après. Donc un enfant, effectivement, on va dire, si avant 7 ans, il baigne dans deux langages différents, ça tombe bien qu'il ait cette capacité de base de discriminer les langues entre elles, par exemple, sa langue maternelle d'une autre, il va réussir à faire la distinction entre les deux langues et à apprendre les deux langues. S'il entend deux langues dans des proportions importantes, dans des vraies situations de communication, tout ça, il va pouvoir devenir parfaitement bilingue, donc anglais, français, même si, par exemple, pendant la première année de sa vie, il n'a entendu que du français, et les parents partent aux États-Unis après, et l'enfant il a un an et demi, et ben, il va apprendre l'anglais comme il a appris sa première langue maternelle, en fait. Ça va devenir une deuxième langue maternelle native pour lui. Donc c'est jusqu'à 7 ans que ça fait, mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut que ça soit dans des vraies situations de communication, dans des proportions importantes. Il ne faut pas qu'ils entendent 10% d'une langue, 90% d'une autre. Donc, une heure d'anglais devant un ordinateur avec des petites 3 ans, c'est pas comme ça qu'on en fera des bilingues. Ça marche pas comme ça. Au niveau production, donc ça c'est au niveau perception. Alors, pareil, ça veut pas dire que comme ils savent percevoir les langues, les phonèmes de leur langue maternelle, ça y est, tout est joué, ils connaissent la phonologie. On est juste sur de la perception, sur j'entends tel son, c'est deux sons différents. Vous savez bien qu'effectivement, après, il faut continuer à travailler explicitement la phonologie. Donc ça, c'est un truc vraiment en maternelle pour qu'ils acquièrent cette conscience phonologique. Donc là, on va dire que c'est plutôt de l'implicite. Et explicitement, il va falloir qu'ils comprennent ce que c'est que ces phonèmes, qu'est-ce que c'est que ces syllabes, qu'est-ce que c'est que ces unités sonores. Donc la conscience phonologique, c'est le fait de consciemment, explicitement manipuler, découper, comprendre, en gros, ce que sont toutes les unités sonores du langage. Mais bon, on peut se baser, on sait qu'ils ont cette capacité perceptive, en tout cas. Au niveau production, pareil, les premiers indices de l'influence de la langue maternelle, c'est vers 8-10 mois. J'aurais aimé avoir le temps de vous faire entendre du babillage d'enfants. Mais donc, je vous promets que donc, des enfants de langues différentes, vous les entendez à 8 mois, en train de gazouiller, ils vont font tous des « ah, 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 ah », des trucs un peu, je dirais, entraînement phonatoire, je sors un son, mais je ne le maîtrise pas, en gros. Ils font tous la même chose. À 10 mois, les mêmes enfants, vous les entendez, vous êtes capable, en gros, de vous dire déjà que c'est des langues différentes. En gros, on dit que les enfants, ils babillent dans leur langue maternelle. À 10 mois, va vraiment y avoir une influence au niveau de l'intonation, au niveau des syllabes qui vont être prononcées, au niveau des phonèmes qui vont être prononcés. Ça commence à devenir spécifique à la langue maternelle. C'était un moment qui était important, qui est toujours important, mais en tout cas qui était très très important. Avant, par exemple, quand on n'avait pas tous les tests pour dépister les enfants sourds, maintenant on peut les dépister très rapidement, les enfants sourds, donc on peut très vite leur apprendre la langue des signes. La langue des signes, c'est un vrai langage, hein, comme le langage oral. Par contre, avant, quand on ne savait pas les dépister, les enfants sourds, quand ils sont petits, quand ils ont quelques mois, ils produisent exactement les mêmes sons, les mêmes gazouillis que les enfants entendants. Il y a un moment où les choses commencent vraiment à changer de manière radicale, c'est qu'à 10 mois, en gros, les enfants qui entendent se mettent à babiller vraiment dans leur langue maternelle. Tout d'un coup, ça va être différent, la manière de faire. Les enfants sourds, ils arrêtent. Ils prononcent plus rien. Ils produisent plus rien. Et donc, avant, c'était vraiment un moment de se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on pouvait, à ce moment-là, se dire qu'il y avait probablement un problème d'audition, on pouvait faire différents examens et apprendre après la langue des signes. Mais ils avaient quand même quasiment un an de retard, après, au niveau de l'apprentissage. Et donc, il paraît, moi je ne connais pas la langue des signes, mais il paraît que effectivement la langue des signes, si vous prenez un enfant qui connaît la langue des signes française, la langue des signes anglaise, c'est qu'il y a plein de langues des signes aussi, et ben ils vont faire les mêmes signes, les mêmes mouvements quand ils sont petits, jusqu'à 8 mois, et il paraît qu'à 10 mois, effectivement, ils signent dans leur langue maternelle. Alors, je ne sais pas quels sont les indices, mais donc il y a vraiment un truc à 10 mois qui se passe en perception, en production, où les enfants vont se centrer sur leur langue maternelle. Donc plein de choses jouées à la fin de la première année de vie, mais plein de choses à apprendre quand même après. Mais il y a déjà quand même un bon travail de fait de la part des enfants pendant la première année. En gros, c'est pour dire ils ont des capacités en langage avant qu'ils parlent. Quoi. Parce qu'avant, on disait les enfants, on peut s'intéresser à leur langage une fois qu'ils parlent. C'est tard, en fait. On sait qu'ils savent faire plein de choses maintenant avant. Alors après tout ça, il y a le lexique, le développement du lexique. En gros, ça commence aux alentours d'un an, on dit, au niveau de la production. Alors les enfants, ils vont devoir apprendre les mots de leur langue maternelle. C'est le truc le plus simple qu'on se dit, évident, pour apprendre une autre langue, il faut qu'on apprenne les mots. En général, pour nous, quand on se dit apprendre les mots, on pense à ça. Trouver le sens des mots. C'est en gros créer notre dictionnaire mental. Donc il faut qu'on trouve une définition aux mots qu'on nous donne. Et souvent, les gens, ils oublient la première étape. La première étape pour réussir à apprendre les mots de sa langue maternelle, c'est identifier la forme sonore des mots. C'est savoir que quand on entend « regarde le petit chien, il est en train de courir dans le jardin », c'est regarde le petit chien qui est en train. Le truc, c'est que nous, la parole, c'est un problème qu'on appelle la segmentation lexicale. Le problème, c'est que la parole, c'est quelque chose de continu. On ne parle pas comme des robots dans les films de SF des années 70. On ne parle pas comme ça, où on fait des pauses entre chaque mot. On parle plus ou moins vite, j'ai plutôt tendance à parler vite, donc je dois ralentir le rythme quand je parle à mon fils. On a tendance à parler donc assez vite, en tout cas on colle les mots entre eux, on peut dire qu'on a peut-être des espaces entre des groupes de mots, il y a des groupes de souffle, parce que même si je parle vite, il y a des moments, il faut quand même que je reprenne ma respiration. Quand on met des pauses, c'est en fait à la fin des phrases, l'équivalent des points à l'écrit. Par contre, l'équivalent des espaces entre les mots à l'écrit, ça n'existe pas à l'oral. On n'a pas de blanc, on n'a pas de silence, on n'a pas de marque régulière, systématique, pour dire, voilà, ça c'est le début d'un mot, ça c'est la fin d'un mot. Donc pour les enfants, c'est la première grosse tâche à faire. Une fois qu'ils ont compris que c'était petit, que c'était chien, tout ça, ils peuvent se dire, qu'est-ce que ça veut dire petit, qu'est-ce que ça veut dire chien. Alors je vous ai mis juste une représentation, on va dire, de qu'est-ce que ça pourrait être l'équivalent pour les enfants. C'est-à-dire, ouais, là on a été surpris, on s'est dit, tiens, il y a un gros paquet qui est apparu sur l'écran, mais en fait, c'est pas difficile. Logiquement, vous avez tous réussi à la lire, cette phrase-là. Même si j'ai retiré les espaces. Le truc, c'est que vous connaissez les mots. Vous connaissez la syntaxe. Vous êtes doué en général, vous avez déjà les capacités de mémorisation, vous n'avez pas oublié ce que j'ai dit avant. Vous êtes capable d'utiliser ce que j'ai dit avant. En gros, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'espace entre les mots à l'oral. Donc vous êtes, avec toutes ces connaissances-là, vous êtes plus retardé, on va dire, pour lire ça quand il n'y a pas d'espace que s'il y avait des espaces, mais très rapidement, vous y arrivez. C'est vrai, mais vous, vous avez tout ça comme connaissance. Les enfants, ils ne les ont pas. Je vous mets la même en hollandais. S'il n'y a pas de locuteur natif du hollandais ou des gens qui connaissent le hollandais, logiquement, si je vous demande là où sont les mots, segmentez-moi cette phrase-là en mots, vous n'allez pas vraiment réussir. Vous pouvez faire des inférences, dire attends, j'ai pas fait d'allemand non plus. Genre, der, je pense que ça ressemble à un article allemand, un truc comme ça. En tout cas, ça sonne bien comme un article. Mais bon, vous, vous savez que les phrases commencent par des articles, vous utilisez vos autres connaissances pour faire des inférences. Là, il y a un truc qui ressemble à Word en anglais. On a parlé de mots dans la phrase d'avant, c'est probablement le même mot en hollandais. Donc, en gros, vous pouvez faire des inférences par rapport à vos connaissances. Mais avec certitude, si déjà vous n'aviez pas cette phrase-là au-dessus comme modèle, avec certitude, me dire où sont les mots, vous ne seriez pas capable. Eh bien, les enfants, c'est ça, en gros, qu'ils entendent. Leur langue maternelle, c'est ça au début. C'est des suites de sons, des suites de syllabes. Et il faut qu'ils arrivent à trouver où sont les mots. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour vous dire, on sait qu'ils y arrivent. Alors, je vous ai listé les indices. Il faudra un jour que je vous fasse 12 heures de présentation. Trop de choses à vous dire. On sait qu'ils commencent à y arriver vers 7 mois et demi. C'est des données avec des enfants américains, parce que c'est là-bas que ça se fait au début. Maintenant, en France, on a des labos bébés, on peut réussir à faire des manips bébés, sauf qu'au début, on s'est dit, mais c'est pas possible, on est nul en France pour faire des manips avec des bébés, parce qu'on n'arrive pas à répliquer les résultats. Premier truc, c'est répliquer dans notre langue. Puis après, on va essayer de faire nos propres expériences. Puis on n'y arrivait pas. Et à force de ne pas y arriver, mais que ça soit plein d'équipes en France qui n'y arrivent pas et qui arrivent toutes au même résultat, on s'est rendu compte qu'en fait, les petits bébés français ont un retard. Au début, comparé aux enfants américains, nous, c'est plutôt vers un an que ça commence. D'avoir vraiment cette capacité d'extraire les mots de la parole continue. Donc, à reconnaître des mots dans les phrases. Le retard, il est vite comblé, hein, vous inquiétez pas. Hein, mais au début, il y a un petit retard. Alors, ils utilisent, je vous dis, je ne vous rentrerai pas trop dans les détails, ils utilisent des indices qu'on appelle prélexicaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de connaître des mots de leur langue maternelle, ils n'ont pas besoin de connaître la syntaxe, ils n'ont rien besoin de connaître pour réussir à les utiliser. C'est des indices super fins. En général, plein de choses au niveau, par exemple, du signal de parole, qu'ils ont des choses acoustiques, prosodiques, tout ça. Donc, des petits indices très très fins. La fréquence, le contexte, tout ça, ça va jouer. Alors, la forme, je vous dis juste en gros ce que c'est. Forme typique des mots, 7 mois et demi. En gros, c'est aux États-Unis qu'ils ont ça. Nous, on ne l'a pas en français. En anglais, enfin en américain, en anglais et en américain, eux, ils ont des syllabes, en fait, qui sont soit fortes, soit accentuées, soit faibles, pas accentuées. Nous, on n'a pas ça. Les syllabes, elles ne sont pas ou accentuées ou pas accentuées. C'est les mêmes syllabes, nous. Eux, ils ont des syllabes qui sont fortes, des syllabes qui sont faibles. Dans 90% des mots de contenu, genre les noms, les verbes, tout ça, les mots, c'est toujours bisyllabique, une syllabe forte, et derrière, on met une syllabe faible. Ce que font les adultes, ce que font les enfants, on leur fait un langage, même un truc qui n'existe pas. En gros, ils vont faire à chaque fois, ils vont prendre la syllabe forte qu'ils entendent, ils collent la syllabe faible d'après, et ça, c'est un mot. Dans 90% des cas, ça marche. Donc, c'est une bonne stratégie. Ils peuvent se faire piéger, dans 10% des cas, ça ne marche pas. Mais en tout cas, donc, c'est pour ça que les enfants américains, ils y arrivent. Et puis, je vous ai dit, au niveau de l'intonation, des choses comme ça, c'est hyper, hyper exagéré aux États-Unis comparé à nous. Pourtant, je trouve qu'on fait déjà pas mal. Quoi. Le fameux... le moverise, ça s'appelle, le parler bébé, mais le bon parler bébé, pas le parler bébé en disant « Oh, tu vas aller au popo, t'as fait le popo dans la coucouche. » Ça, c'est le parler bébé qu'il faut éviter, mais le parler bébé de « Oh, comment ça va, mon chéri ?» tout intonatif comme ça, ça, c'est très bien. Et eux, c'est encore plus exagéré. Alors ça, c'est un truc voilà, typique aux États-Unis. Probabilité de transition, c'est très impressionnant. Les enfants sont des statisticiens. Celui-là, il est important, à mon avis, parce qu'il va vous montrer l'importance de la fréquence et du contexte. En gros, ce qu'ils savent faire, c'est vraiment des calculs, des choses, c'est des statisticiens. Et je vous jure, donc, le papier a été publié dans Science, le truc où tous les chercheurs rêvent de publier. Ça a fait vraiment sensation, ça a été répliqué plein de fois, ça marche. En gros, les enfants, ce qu'ils font, ils vont être sensibles à la fréquence d'apparition des syllabes les unes avec les autres. Et en gros, des syllabes, par exemple deux syllabes, qui apparaissent tout le temps ensemble, ou très 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 fréquemment ensemble, alors que tout le reste autour, le contexte, les autres syllabes qu'il y a autour, ça varie, ils vont considérer ça comme un mot. Des choses qui apparaissent, deux syllabes qui apparaissent très très rarement ensemble ou jamais ensemble, ils vont pas les considérer comme un mot. Donc en gros, c'est plus les choses apparaissent fréquemment ensemble dans des contextes variés, plus c'est facile pour les enfants, au moins déjà, de réussir à les segmenter, à les isoler. On verra, c'est aussi important pour trouver le sens des mots. Plus on répète fréquemment un mot dans des contextes variés, plus on va comprendre son sens. Que si on l'entend une fois dans un contexte, on n'est pas sûr d'avoir bien compris son sens. Donc ça, à 8 mois, les enfants sont capables de le faire. C'est pour ça aussi que les premiers mots qu'ils comprennent et les premiers mots qu'ils produisent, c'est les choses les plus fréquentes qui apparaissent dans plein de contextes différents. Genre le maman, papa, leur prénom, la couche, le gâteau, le biberon, voilà, les trucs les plus fréquents qu'ils ont dans leur vie quotidienne, qu'ils entendent tout le temps. Le contexte peut varier, mais en tout cas, ces mots-là, ils apparaissent tout le temps, très fréquemment. Donc ça, c'est important. Un dysphonotactique, c'est en gros, pareil, à force d'entendre leur langue, des phrases autour d'eux, ils arrivent à calculer, à se rendre compte qu'il y a des sons qui peuvent apparaître ensemble ou pas dans les mots, selon la langue. C'est différent selon les langues. Par exemple, nous, la suite, RTF, RTF, c'est pas possible de l'avoir dans un mot. Les enfants, ils n'ont jamais pu entendre un mot qui contenait RTF. Alors, te, ils ont pu, RT, ils ont pu entendre ça, mais RTF, jamais. Parce que c'est pas possible en français, ça n'existe pas. On n'a aucun mot qui contient TF. Par contre, si dans une phrase, je vous dis porte fermée, là, vous avez RTF. Vous avez bien la suite, porte fermée. Ça y est, il y a bien la suite TF. Les enfants peuvent utiliser ça pour se dire bah, TF, je sais que ça n'existe pas dans la langue, je ne l'ai jamais entendu dans un mot, donc là je suis obligatoirement avec une frontière entre deux mots. Je ne peux pas avoir TF dans un mot, donc j'ai d'abord porte et ensuite j'ai fermé. Et ça, ils peuvent les utiliser, je dis, ils sont très doués, nos petits bébés. Ils peuvent utiliser ça vers 9 mois. Indice allophonique, c'est qu'ils sont capables d'utiliser qu'un même phonème, il est prononcé différemment selon sa position. Un même phonème n'est pas prononcé pareil. Alors c'est des petites variations. Hein. Il va être un peu moins articulé, un tout petit peu plus long, un petit peu plus aigu ou un petit peu plus grave. C'est des petits indices. Il ne va pas être prononcé de la même façon selon qu'il est au début d'un mot, selon qu'il est à la fin d'un mot, selon qu'il est au milieu d'un mot. Et puis, vous savez par exemple aussi que la manière de prononcer pour avoir un phonème, il ne va pas être prononcé pareil selon les phonèmes qu'il y a autour. Juste pour dire qu'est-ce que c'est qu'un allophone. C'est ça qui est différent d'un phonème. Par exemple, vous prononcez tous le mot, j'aurais dû vous l'écrire, absurde. Je vous l'ai dit, mais absurde. Je peux le faire, hein, absurde. Où est-ce qu'il est le B dans ce que j'ai prononcé? Absurde. Faites-le. Absurde. C'est pas un B qu'on prononce, c'est un B. En fait, absurde. C'est un P qu'on dit, c'est pas un B. Donc, en fait, la manière de prononcer le B, donc l'enfant, il doit comprendre ça, parce qu'en fait, sinon, il pourrait se dire, par exemple, vous donnez le truc, robe rouge, un truc, vous racontez une histoire, il y a une robe rouge, c'est bien un B que vous dites, robe rouge, robe rouge. Par contre, dans l'histoire, elle est sale, la robe. Robe sale. Une robe sale. C'est robe sale, en fait, qu'on dit, c'est un P. Donc l'enfant, heureusement qu'il arrive à comprendre ça, parce que sinon, il pourrait se dire, dans mon histoire, là, c'est une robe, dans l'autre, c'est une robe. Et donc, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que c'est qu'une robe. L'enfant, donc, il peut utiliser ça. Il a conscience que les sons se prononcent différemment selon le contexte. Et puis, la prosodie des phrases, c'est que l'intonation, elle varie. Nous, d'accord, on n'a pas des trucs accentués, pas accentués. Par contre, on allonge, par exemple, et on monte l'intonation à la fin des phrases. Ou à la fin, par exemple, des groupes nominaux, des groupes syntaxiques, on va dire. Alors, moi, par exemple, j'avais fait une expérience, montrer qu'un enfant, par exemple, est-ce qu'il sait faire la différence? Donc, on apprend à un enfant qui a un an et demi, à nous donner une réponse comportementale. Donc, nous, c'est tourner la tête sur le côté pour aller voir des petits jouets qui l'intéressent. Tourner la tête sur le côté quand il entend le mot « balcon ». Alors au début, on lui apprend juste ce comportement-là. Alors, on lui présente balcon en isolation, juste pas dans des phrases, pour lui apprendre ce comportement-là. Après, quand on le teste, on lui met des vraies phrases. Et donc, on va avoir des phrases comme le grand balcon venait d'être détruit, et des phrases comme ce grand bal conclura la saison. Où on a balcon dans les deux cas. Dans un cas, c'est un mot, dans un cas, c'est pas un mot. C'est dans deux mots différents. Et en fait, si je vous l'ai fait en vrai, avec l'intonation, vous avez vraiment un truc. Le grand balcon venait d'être détruit. Vous avez bien balcon, ça monte. Et l'autre, c'est le grand bal conclura la saison. Donc en fait, on monte à la fin d'un groupe et on allonge. Donc en fait, le bal de balcon et le bal de bal, c'est pas le même. Les enfants peuvent utiliser ça. Donc quand on leur demande de répondre au mot balcon, ils répondent bien dans la première phrase. De temps en temps, ils seront piégés, mais en tout cas, ils répondent moins dans la deuxième phrase. Donc plein d'indices de bas niveau, la fréquence, le contexte d'apparition, la prononciation, l'intonation, tout ça, ça va jouer. Alors ça paraît peut-être anecdotique, parce que je vous dis, c'est les premières étapes. Le petit avion, le gros éléphant, qui nous font tous, moi mon fils, il a 2 ans et demi, il est en plein dedans, l'autre jour il m'a dit, oh regarde, une étoile. Non, par contre, je la note, après, pour donner des exemples. Non, mais c'est rigolo, moi, il est en plein dedans. Il m'en fait plein, des comme ça. Et les enfants, ils en font tous. Et même plus vieux, hein, en maternelle, ils vous les font tous. Hein, quand même, ils en font tous, des comme ça. C'est un problème de segmentation lexicale. C'est juste qu'effectivement, moi, mon fils, je lui dis toujours « Oh, les étoiles, elles sont belles, les étoiles. Regarde les étoiles. Oh, il y a des étoiles dans le ciel. » Résultat, peut-être qu'à force, il connaît les, il connaît des, parce qu'il les entend beaucoup. Puis quand il segmente, bah, le seul truc qui reste, c'est les étoiles. Donc maintenant, j'essaie de lui dire « Il y a une étoile, oh, la petite étoile. » Ou voilà, pour qu'à force... C'est un peu utiliser ça, c'est-à-dire que fréquemment je lui apporte ce mot-là, en variant les contextes, ce qui fait que le contexte varie, mais la seule chose qui reste identique, c'est étoile. Et donc pareil, les enfants, quand on entend tout le temps parler d'un avion, bah, après c'est un petit avion, quoi. C'est un avion qu'ils ont extrait. Donc après, il faut qu'ils arrivent à comprendre, et donc ça, vous serez confronté à ça. Donc ces indices-là, on peut les utiliser aussi avec les enfants plus vieux. On finit le lexique, puis on fait une pause. C'est bientôt fini le lexique, même si ça continue après. La compréhension des premiers mots, on dit que c'est aux alentours de 8-10 mois que ça commence à émerger, toujours avec les données américaines, hein, c'est pour ça que, en gros, quand ils commencent à extraire, ils commencent à trouver du sens, donc nous c'est un peu plus tard. Les premiers mots qu'ils comprennent, et ben, en gros, c'est les premiers mots qu'ils ont extraits, donc les mots les plus fréquents, les plus courants, qu'ils entendent souvent. Leur prénom, en général, c'est le premier. Puis voilà, papa, maman, couche, doudou, ces trucs-là. Et au niveau de la production des premiers mots, alors on dit, on date en général, on dit qu'en moyenne, le premier mot, c'est un an. C'est hyper variable, en fait. Il y en a, ça va être à 8 mois. Il y en a, c'est à 2 ans. C'est pas grave. Il y a beaucoup de variabilité dans le langage. On dit typiquement, c'est à 1 an. Problème, c'est que c'est au milieu d'un babillage. Donc au milieu d'un « ah, t'as pas, de temps en temps, il y a un mot qui peut sortir. Sauf que, pas évident qu'on l'entende, déjà. Alors, pas évident que les parents veuillent l'entendre. Parce que le premier mot qu'ils veulent, il y en a un, il veut que ça soit maman, l'autre, il veut que ça soit papa. Si c'est doudou, leur prénom ou machin, ils ne veulent pas l'entendre. C'est pas ça qu'ils veulent comme premier mot, ils attendent maman et papa. Donc déjà, les attentes parentales peuvent jouer sur quand est-ce qu'on estime que le premier mot est sorti. Puis l'autre problème, c'est que les premiers mots, c'est donc au milieu du babillage, puis c'est jamais la super bonne forme. Comme nous, on le dit, c'est très approximatif. Alors au niveau phonologique, ce que font les enfants, en gros, ils simplifient. Ils le font... longtemps après, hein. En maternelle, vous les voyez aussi, ils simplifient. Il y a des suites de sons qui sont difficiles à dire, il y a des mots qui ont beaucoup de syllabes, alors ils vont en enlever. On essaye toujours de simplifier, parce que bah, c'est difficile au niveau de la mémorisation, au niveau de l'articulation, au niveau voilà, tout ça. Alors, ils vont souvent bah, prendre une syllabe et puis ils vont la dupliquer, genre le pimpin, pour le lapin. Ils vont omettre des syllabes ou des phonèmes, parce qu'il fallait bien. C'est bien d'avoir un enfant, parce qu'après, entre les exemples, il faut juste qu'il me revienne. Le cola, pour le chocolat. Ou alors, ils vont remplacer des phonèmes. Donc, voilà, c'est un crin, c'est pas un train, c'est un crin. Donc, il va changer les phonèmes. Donc, il y a le bon nombre de syllabes et tout. Donc, c'est toujours de la simplification. Souvent, par exemple, il y a des suites de sons qui sont difficiles à dire, au niveau articulatoire, hein, les suites de deux consonnes sont difficiles à dire, donc ils vont souvent pas le faire. Mais même après, enfin, le maigresse, voilà, le fameux maigresse, où je vais au pestac, tout ça, c'est de la simplification. Alors juste un point justement, quand je vous dis c'est de la simplification, c'est le truc normal dans le développement normal de l'enfant. Des enfants même à 3 ans, 4 ans, qui vont simplifier, c'est normal. Si à 4 ans, vous avez des enfants, 4-5 ans, des enfants qui complexifient, ça arrive. Il y a des enfants, en fait, on se dit, mais pourquoi il m'a sorti ça? C'est encore plus dur de dire ça que de dire la vraie forme. Ils vont vous rajouter des sons, ils vont vous faire des choses encore plus dures articulatoirement. En général, c'est ce qu'on trouve plutôt dans des tableaux de dysphasie, donc les troubles sévères d'apprentissage du langage. Donc le truc classique, c'est de la simplification. Alors ils sont aussi approximatifs au niveau... Alors juste pour dire, duplication de syllabes, c'est le truc le plus classique. Les papas, ils ont du bol. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est papa le premier mot. On prend pas, on la répète, et ben c'est papa, ça tombe bien. Maman, pas de chance, je suis sûre qu'il y a plein de mamas dans le discours qui veut probablement dire maman pour l'enfant, sauf que les mamans, elles veulent pas entendre maman, elles veulent entendre maman. C'est pour ça que souvent on dit que c'est papa qui sort en premier aussi. Au niveau sémantique, donc ils sont aussi approximatifs, il y a deux phénomènes qui sont... Alors le deuxième est plus connu que le premier, mais le premier existe, en général on dit qu'il y a environ 30% de surdiscrimination, 30% de surgénéralisation, et le reste c'est bien prononcé. La surdiscrimination ou la sous-extension, en gros, c'est que les enfants, au début, ils vont avoir tendance à vous mettre un mot pour un spécimen particulier dans un contexte particulier. C'est pas le concept encore, c'est l'élément précis. Ils ont un chien chez eux, un caniche, ils ont appris chien, le mot chien sur ce caniche-là. Et bien, l'autre caniche qui passe dans la rue, ou le berger allemand qui est chez les voisins, ou l'épagneul qui est chez les grands-parents, c'est pas chien. Ça peut pas être chien. Parce que pour lui, chien, c'est celui-là. Le chien qui est à la maison et qui est comme ça, et voilà, c'est lui le chien. Donc ça, c'est de la surdiscrimination. Ils vont vous mettre vraiment un mot pour un exemplaire particulier. Sans mettre de mots, mais en non-verbal, mon fils, il me le faisait aussi, le poisson. Je lui avais appris dans la salle de bain, quand je prenais le bain, il y avait les animaux qui étaient caoutchoutés sur le truc, ventousés, et il y avait le petit poisson rose. Machin. Et donc, je lui faisais toujours le poisson en faisant le classique. Parce qu'à côté, il y avait une tortue, je ne savais pas faire la tortue, c'est le poisson qui est sorti. Et à un moment, mon fils, quand on allait prendre le bain, il regardait ce poisson, et il me regardait après, puis il faisait... Je me disais, ah, oh, ça, c'est beau, quoi. Il est en train de me dire poisson, bon, il me fait le poisson. C'est trop bien. Sauf qu'un jour, j'ai changé les animaux de place. Donc déjà, ils ne voulaient pas me le refaire. Après, j'ai acheté un imagier en disant, regarde, c'est un poisson. T'as vu le poisson? Jamais il a voulu me faire. Au début, maintenant, il le fait. Mais au début, jamais il a voulu me faire le poisson. Et puis, pour vous dire... Encore une fois. Et après, en fait, je lui ai acheté, une fois qu'on a enlevé le de la petite baignoire, je lui ai acheté, donc il prenait ses grands bains, le tapis de bain qu'elle avait avec les poissons ventousés. Donc, il y avait les mêmes poissons qui étaient dessinés quand même. Et bien, jamais il a voulu me le faire. Pour lui, au début, poisson, c'était ce poisson rose ventousé à tel endroit qu'il voyait de telle manière. C'est de la surdiscrimination. Et puis, l'autre phénomène qui est plus connu, c'est la surgénéralisation, où là, ils vont faire un mot pour différents concepts. Tous les petits animaux, c'est des chats. Tous les trucs qui roulent, c'est des camions. Moi, c'était tous des camions. C'est pas des voitures, c'est pas des bus, c'était des camions. Tous les trucs qui ont un truc qui tourne autour, c'est tous des barbons. Voilà, c'est en gros plein de choses, en gros qui se ressemblent, qui ont des caractéristiques similaires. Ils vont avoir le même mot. Donc voilà, ils vont surgénéraliser. Alors, il y a eu plusieurs interprétations à ça. Elles sont toutes vraies. Elles vont toutes expliquer une partie. Elles n'expliquent pas tout. Première explication, c'est l'élaboration lente des concepts. En gros, il y en a qui disent que c'est un problème conceptuel. C'est juste que l'enfant, il n'a pas réussi encore à faire la distinction, à faire les bonnes catégories avec les sous-catégories, et qu'il a un peu mis dans le même paquet des choses que nous, on distingue dans différentes sous-catégories. Comme il a mis ça dans le même paquet, ben, il met la même étiquette lexicale. Une fois qu'il va progresser au niveau de sa catégorisation, il va comprendre que donc on ne peut pas mettre la même étiquette lexicale dessus. Que voilà, le lion, le tigre, la panthère, ben, ce n'est pas tous des panthères. C'est un lion, c'est un tigre, c'est une panthère. Donc il y a des explications en termes d'évolution lente des concepts. Mais ça n'explique pas tout, parce que des fois les enfants conceptuellement savent très très bien que les choses sont différentes, juste ils n'ont pas le mot pour le dire. Ils ne connaissent pas encore le mot pour dire le truc dont ils ont envie de parler. Le fameux monsieur dans la rue qui les intrigue, qui leur plaît, qu'ils ont envie d'attirer votre attention dessus, ils ne savent pas dire monsieur, ils ne savent pas dire homme. Résultat, ce monsieur dans la rue va devenir papa. Ça, c'est le truc classique. Et donc, à 2 ans et demi, ça y est, moi, il le fait. Donc là, hier, il y a vu le voisin, puis il a dit, c'est papa. Alors, donc son père a dit, j'espère que non. Comme là, c'est son père qui m'a tapé, là. C'est... En fait, le truc, c'est pour dire, c'est pas conceptuel. Je pense pas qu'un enfant à 2 ans, 2 ans et demi, confonde sa mère avec les autres femmes, son père avec les autres hommes. Juste que c'est vrai qu'on leur apprend pas souvent, homme, femme. Enfin, c'est pas des mots fréquents dans le vocabulaire qu'on donne aux enfants. Et donc, l'enfant, il va prendre un truc. Bah voilà, il veut parler, il veut communiquer. Donc, il va prendre le mot qui correspond le plus proche pour se faire comprendre. Bon, bah, papa, c'est un homme aussi. Donc ça, c'est un truc, vraiment, on voit par exemple quand le lexique augmente des enfants, ces phénomènes-là diminuent, donc c'est une grosse explication. Vérifiez si c'est un problème conceptuel, parce que des fois, on peut être inquiet en se disant, l'enfant, à chaque fois, il ne prononce pas le bon mot. Est-ce qu'il a compris conceptuellement? C'est vérifier la différence entre production et compréhension. Les enfants sont très, très, très en avance en compréhension comparé en production. On garde ça, nous aussi, adultes. Notre vocabulaire en compréhension est plus élevé que notre vocabulaire en production. On comprend plus de choses que ce qu'on produit. Les enfants, c'est pareil. Et donc, par exemple, si c'était un problème conceptuel, au niveau de la compréhension, l'erreur resterait. Donc, un enfant, voilà, vous lui demandez de choisir entre 2 images, où il les nomme pareil, mais si vous lui demandez d'aller choisir le tigre, par exemple, et la panthère, et qu'il vous choisit bien le tigre et pas l'autre, et bien la panthère et pas l'autre, en compréhension, ça va. Ça veut dire qu'en production, c'est probablement plus un problème de lexique limité. Et puis quand ils sont plus grands, ils ont des stratégies d'évitement. Ils en ont marre de se faire reprendre quand ils disent mal un mot, donc ils vont essayer de vous dire autre chose pour éviter la réprimande ou éviter qu'on dise non, essaye et tout. Et donc, au lieu de vous dire spectacle, qu'ils ne savent pas dire et qu'ils disent pestacle et qu'à chaque fois ils disent non, c'est pas pestacle, c'est spectacle, il va vous dire fête, il va vous dire quelque chose qui pourrait se rapprocher juste pour pas dire le mot à dire. Donc, c'est très approximatif pendant très longtemps. C'est en phonologie et en sémantique. Petite pause. Vais-je arriver au bout? Je ne sais pas.
On donne
Compréhension du sens des mots qui guide les premières compréhensions, les premières hypothèses que les enfants font. Un des principes, justement, s'appelle le principe de l'objet entier, l'objet comme un tout. Donc, ils ont tendance, en fait, à se dire qu'un mot qu'on leur apprend, c'est un objet et que ce mot va désigner plutôt l'objet dans son intégralité plutôt qu'une partie de cet objet, par exemple. Donc, effectivement, par exemple, pour apprendre les propriétés, si on leur montre une pomme rouge et puis qu'on lui dit c'est rouge, ou rouge, il va peut-être au début, s'il ne connaît pas encore le mot pomme, plutôt penser que rouge correspond à l'objet entier. Donc c'est pour ça qu'en général, les premiers mots compris et les premiers mots produits sont plutôt des noms, et après on a les verbes et les adjectifs. Donc vers 18-20 mois, en gros, l'âge, pareil, hein, c'est toujours à prendre avec des pincettes, c'est en moyenne. Par contre, le truc qui reste constant, c'est a priori, selon toutes les études, il y en a eu plein, c'est quand l'enfant il a 50 mots dans son vocabulaire, en gros, quand il produit 50 mots, on arrive à une phase d'explosion lexicale. Où en fait au début on voit que les enfants apprennent très doucement des nouveaux mots, donc ils en ont on va dire 1 à 12 mois, 10 à 15 mois, 50 à 20 mois, et après en fait si on regarde la courbe de production des mots, en gros on a une augmentation très légère au début, très lente, et d'un coup ça fait vraiment la courbe qui explose, en explosion lexicale, ils apprennent plein de nouveaux mots par jour. En général c'est mis en lien justement avec les capacités de catégorisation, le lien avec la pensée. Les enfants comprennent que le langage, ça sert à dénommer des choses, que chaque chose doit avoir un nom. Ils commencent à avoir des capacités de catégorisation, à se dire qu'il y a des choses qui sont similaires, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qu'on peut mettre ensemble. Donc, ils peuvent avoir une étiquette globale, mais elles sont similaires et pas identiques. Donc, elles doivent avoir chacune aussi leur étiquette. Donc, grâce à ces capacités, on va dire, dans le développement intellectuel, on voit un effet aussi au niveau du développement du langage. Alors pendant longtemps, ils vont produire, on va dire, ce qu'on appelle des holophrases, c'est-à-dire que ça va être, ils vont vraiment produire un mot pour une phrase. Et donc c'est vraiment important de prendre en compte le contexte, de prendre en compte l'intonation, parce qu'ils l'utilisent autant que nous. En gros, pour eux, un mot ne va pas vouloir dire la même chose selon le contexte, selon l'intonation. Voilà, ils peuvent vous dire auto, mais ça peut vouloir dire c'est mon auto, l'auto est parti, donne-moi l'auto est tombé, l'auto est là. Voilà. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc même des enfants qui à l'école arrivent, parce que justement, vous êtes en petite section, vous avez des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui sont à la période holophrase, des enfants qui sont à la langage télégraphique, qui collent quelques mots ensemble, mais ce n'est pas encore bien structuré, puis des enfants qui parlent super bien déjà. Des enfants, même quand ils sont à cette période holophrastique, où un mot égale une phrase, c'est un mot égale une phrase, mais égale plein de sens différents. Donc il faut vraiment prendre en compte le contexte et l'intonation. Ou faire un auto, ou un auto, genre l'auto est tombé, c'est auto, ou elle est cassée, voilà. Donc ils vont vraiment utiliser ça pour faire comprendre le sens qu'il y a derrière. Ensuite, donc on va rentrer dans ce qu'on appelle le développement de la morphosyntaxe. Donc ils vont commencer justement à apprendre la morphologie, à comprendre les règles qui régissent la construction des mots, par exemple, qu'il y a des, même s'ils ne mettent pas ces termes-là, qu'il y a des radicaux qu'on retrouve dans certains mots, qu'il y a des mots de la même famille, par exemple, mais aussi tout ce qui va faire l'accord des mots, le féminin, le masculin, le pluriel, le singulier, le temps des verbes. En gros, voilà, il y a de la morphologie, il y a une manière de construire les mots. Et puis la syntaxe, ça va être toutes les règles qui régissent la construction des phrases, donc l'ordre des mots. Voilà. Alors on dit que la grammaire, elle émerge aux alentours de 18-24 mois. On va dire que quand on met les âges les plus tôt, c'est en compréhension. Je vous dis à chaque fois, en compréhension, ils sont plus doués qu'en production. En compréhension, effectivement, il y a des données les plus récentes montrent que l'ordre des mots semble connu très tôt. En tout cas, c'est utilisé par les enfants pour bien comprendre des phrases à 17 mois. Si on leur propose deux vidéos ou deux images, une où c'est un chien qui embrasse un chat et l'autre où c'est un chat qui embrasse un chien, et qu'on leur dit « le chat embrasse le chien », ils vont bien regarder la bonne image qui correspond à la phrase. Si on leur dit « le chien embrasse le chat », ils vont bien regarder l'autre image. Donc, en tout cas, une compréhension un peu que l'ordre dans lequel les mots apparaissent peut avoir un impact sur le sens. Les premières phrases qu'ils produisent aussi respectent en général l'ordre des mots de leur langue maternelle. Nous, on est une langue sujet-verbe-objet. Les premières phrases qu'ils produisent, en général, sont de type sujet-verbe-objet, et même s'ils mettent que deux mots, c'est plutôt sujet-verbe, verbe-objet, sujet-objet, mais ils vont rarement inverser, en fait. Ou dans certains cas, jamais inverser. Alors, une fois qu'ils sont passés à la période holophrastique, après, ils vous collent des mots ensemble, mais on dit que c'est du langage télégraphique, parce qu'en fait, il y a cette distinction-là, les mots de contenu contre les mots grammaticaux. Les mots de contenu, c'est les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Tous les trucs qui vont donner du sens, qui sont assez longs à dire. Les mots grammaticaux, c'est tous les tout petits mots qui donnent la structure des phrases. Les articles, les pronoms, les auxiliaires, les marques morphologiques, justement. Et ça, les enfants, au début, ils ne les produisent pas. Pendant très longtemps, les chercheurs ont dit, les théoriciens ont dit, c'est des mots qui sont très courts dans les phrases, pas du tout accentués, rien. Et en gros, les enfants ne doivent même pas les entendre. Donc en gros, ils ne les connaissent pas. Tant qu'ils ne les produisent pas, c'est qu'ils ne les connaissent pas. Maintenant, on sait qu'à un an, les enfants connaissent les mots grammaticaux de leur langue maternelle. Ils savent qu'est-ce qui est un bon mot grammatical et qu'est-ce qui n'est pas un mot grammatical de leur langue maternelle. Leur font entendre une histoire où on remplace tous les « là »,« une »,« des » par des trucs qui n'existent pas en français, des « co », des trucs comme ça. Ils ne vont pas aimer écouter cette histoire, ils vont trouver ça assez bizarre. Donc, ils ne les prononcent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne les comprennent pas. Par contre, c'est vrai qu'ils vont vous faire du langage télégraphique. Donc ils vont vous coller des mots, mais ils ne vont pas vous mettre les marques comme ça, grammaticales, les mots grammaticaux. Donc ça va être papa parti, maman gâteau. Donc c'est pas qu'ils ne les comprennent pas, qu'ils ne les entendent pas, c'est juste qu'il n'y a pas besoin à la rigueur au début de les produire pour se faire comprendre. Qu'ils disent maman le gâteau ou maman gâteau, le résultat est le même. Ils savent très bien qu'ils auront leur gâteau. Donc pas besoin de les produire, pas besoin de faire plus d'efforts. Notre système cognitif est fait qu'on cherche l'économie cognitive. On ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Donc les enfants, c'est un peu pareil. Et puis, ils vont faire comme ça, deux mots, trois mots qui vont coller. Et à un moment, il y a la syntaxe qui va vraiment émerger. Donc ça peut commencer vers deux ans et demi. Des fois, il y a des choses qui apparaissent à trois ans. Si on regarde, je vous ai mis rapidement, pareil, les âges à prendre avec des pincettes, c'est vraiment des moyennes. Les articles, ils vont commencer à apparaître assez tôt, vers deux ans et demi. Avant de prononcer des vrais articles, souvent ils vous font le gâteau. Ils vont vous mettre un petit truc avant, qui n'est pas un vrai article, mais ils vont vous mettre quelque chose comme s'ils savaient qu'il y a quelque chose avant le mot, mais ils ne savent pas encore bien le dire. Donc d'abord, en général, on a plutôt des articles indéfinis, et ensuite on a les articles définis. Ça apparaît vers deux ans et demi. On dit que c'est utilisé à peu près correctement pour tous les articles vers 6-8 ans, dans le sens, en gros, ils les connaissent tous avant. Par exemple, bien utiliser quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser un défini et pas un indéfini, et vice-versa, ça peut mettre du temps à être compris. Donc les cas où on utilise vraiment. Par contre, ils les connaissent avant. Et puis, c'est d'abord en général un accord en genre qu'on voit. Ils maîtrisent plus rapidement, ils comprennent plus facilement l'accord en genre, la différence masculin-féminin. Et l'accord en nombre est un peu plus tardive, comparé à l'accord en genre. Au niveau des pronoms personnels, donc ça apparaît pareil aux alentours de 2 ans, utilisé à peu près correctement vers 4 ans. Alors les psychologues, plutôt psychologie, clinique, psychanalyse, ou même les pédiatres maintenant, parce que j'ai eu la visite chez un pédiatre, m'a posé la question, comment parle-t-il de lui, votre enfant? Est-ce que vous avez noté? Et je dis, bah oui, je m'intéresse au langage, donc c'est sûr que j'ai un peu une déformation professionnelle. Je dis, je vous vois venir avec vos grands sabots. Je dis, non, il ne dit pas je. Il dit, ah bon, il dit pas je, bah vous me direz quand est-ce qu'il dira je. Bah, je dis, il va peut-être avoir du mal au début à dire je, parce qu'en fait, moi, comment est-ce que je parle de moi? Je dis, maman, elle. Il y en a beaucoup à le faire. Et son père, il dit, papa, il. Et je lui dis pas, viens me voir, je lui dis, viens voir maman. Et puis, je lui dis pas, tu veux que je fasse ça? Je lui dis, tu veux que maman, elle fasse ça? Donc, effectivement, comment est-ce que mon fils parle de lui en ce moment? Il dit, Lucas, il. Bah, il dit comme moi. Et on apprend par imitation, il apprend par le modèle qu'il a. Donc le « je », on dit qu'il apparaît aux alentours de 3 ans, ça peut être un peu plus tardif, ça dépend aussi de ce qu'il aura comme input langagier. Ça peut être plus précoce, hein. J'ai une collègue qui, elle, dit toujours « je » quand elle parle d'elle, même à son enfant. Et son fils, à 2 ans, disait « je » quand il parlait de lui. Donc voilà, le mien est en train de commencer. Mais, c'est pas le plus précoce. Au niveau des pronoms possessifs, bah, ça apparaît vers 3 ans, c'est utilisé à peu près correctement vers 6 ans. Donc vous voyez que, bah, effectivement... Si vous êtes en maternelle, vous savez qu'on travaille tout ça avec eux. Et puis les propositions et adverbes, d'abord on a tout ce qui est possession, bénéfice, qui est plus précocement maîtrisé, tout ce qui est à, de, pour. Et puis ceux qui sont les plus difficiles pour les enfants, c'est tout ce qui concerne le temps, mais parce qu'aussi comprendre le concept de temps, c'est plus difficile pour eux, de comprendre des choses comme le concept de lieu ou le concept de possession. Donc le temps, c'est plutôt vers 4-5 ans, et si on regarde, c'est aussi le moment où au niveau de la syntaxe, on commence à travailler vraiment aussi le passé composé, le futur et tout, donc c'est en lien tout ça. Au niveau des verbes, au niveau de la conjugaison des verbes, on dit que ça commence aux alentours de 3 ans, parce qu'au début, dans le langage télégraphique, c'est souvent des verbes à l'infinitif qu'ils vont aussi utiliser. Ils utilisent, alors au début, c'est impératif, infinitif, présent, on va dire les 3 premiers temps qui sont utilisés. Le passé composé, c'est en place vers 4 ans, 4 ans et demi. Et le futur, alors on lit généralement dans les bouquins que c'est après 6 ans, sauf qu'à nouveau, les enfants, ils font du futur comme nous, on fait du futur dans la vie de tous les jours, et comme donc ce qu'ils entendent, ce qu'ils imitent, après, on fait du futur périphrastique. C'est-à-dire que nous, on met un adverbe qui donne le futur, et puis après, on met une phrase au présent. Ce week-end, je vais à la plage. Demain, je vais manger au resto. Donc les enfants, bah, avant 6 ans, ils ont du mal, justement, à utiliser le « je mangerai », parce que nous, on ne le fait pas non plus. Alors, toutes ces différences qu'il y a, je dirais, entre le langage spontané, oral, qu'il y a dans la vie de tous les jours, ce qui va poser le problème pour les enfants, c'est que justement, l'entrée dans l'écrit, parce qu'à l'écrit, on n'écrit pas comme on parle à l'oral. Donc les enfants, il va falloir qu'ils apprennent justement que la manière de dire le futur, c'est une autre manière de le dire à l'écrit, mais que c'est la même chose, conceptuellement. Donc à l'oral, ils sont très capables de vous parler du futur, sauf qu'ils vont le faire comme vous, qui est un futur périphrastique. Donc quand on dit « après 6 ans », c'est vraiment avec la marque morphologique du futur, quoi. Le « je mangerai ». Au niveau des différents modes que les enfants peuvent utiliser, donc c'est beaucoup de recours à l'intonation dès l'âge de 2 ans. C'est pour le sens des phrases, par exemple, même si vous dites qu'un mot, mais même pour distinguer les différents modes. Donc la distinction, bon, impératif-affirmatif, c'est celui. Ils comprennent qu'il y a une différence quand ils mettent le sujet ou pas. Sauf que ça, c'est difficile à dire quand est-ce que ça émerge, parce qu'il ne faut plus qu'il soit dans du langage télégraphique. Parce que l'enfant qui vous dit « viens », peut-être que ça veut vouloir dire « tu viens », mais sauf qu'ils ne disent pas « tu » encore. Donc faire la distinction entre quand est-ce qu'il a voulu dire l'impératif ou l'affirmatif, il n'y a vraiment que l'intonation. Et ça, vous le faire comprendre quand ils vous disent « viens » comme ça, ou quand ils vous disent « viens », tout gentiment. La distinction négatif-affirmatif, ils la font aussi assez rapidement, sauf qu'ils ne la font pas obligatoirement très très bien au début. On dit que c'est aux alentours de 4 ans qu'ils commencent à maîtriser la négation dans le sens où ils mettent bien la négation autour du verbe avec un « ne pas ». Quoique le « ne », c'est difficile, parce que nous, dans la vie de tous les jours, on ne dit pas souvent. C'est plutôt « j'ai pas envie, je veux pas voilà. ». On dit bien le « pas ». Mais le « ne », on le dit un peu moins. Et puis, bah, les enfants, ils vont en général prendre un énoncé, une manière de vous dire que c'est du négatif, donc genre le « a pu », classique « a pu gâteau »,« a pu dodo », »,« a pu… Enfin, » Donc c'est une manière de vous dire le « a pu ». Et pour dire que chacun a sa méthode, moi, le mien, il a bien compris qu'il y avait un « pas » dans la phrase, sauf qu'il me le met avant le verbe. Donc c'est pas la bonne manière de dire la négation, mais c'est voilà, « non, pas chante », »,« les grues, pas tourne », Et quand il veut dire que c'est vraiment non, il met plein de pas. Okay. Ils ont leur manière à eux de le dire, mais voilà, il faut attendre quelques temps pour que ça soit bien maîtrisé. Et au niveau des questions, pareil, au début, ce sera que de l'intonation. Quand on commence à avoir le langage vraiment qui se développe, on a les pronoms qui commencent à apparaître. Donc, on a des qui, quoi, à qui. Et je dirais, en fin de maternelle, voilà, s'ils vous disent des « est-ce que », c'est très bien. La phrase, la question, la vraie question où on inverse le sujet et le verbe, pour eux, c'est pas évident, mais parce que c'est pas souvent comme ça qu'on parle non plus. Hein. C'est, nous, en général, on fait même plutôt de l'intonation. C'est « tu veux un café ?» C'est même plutôt ça qu'on va dire, plutôt que « est-ce que tu veux un café ?» On a plutôt tendance à faire ça avec l'intonation, donc les enfants le font aussi. Donc, j'irais vraiment faites attention, bah, vraiment à l'intonation. Et attention à comment vous parlez, parce que ce sera par imitation. Donc pareil, y en a qui disaient, par exemple, le « nous ». Les enfants ont du mal maintenant à comprendre le « nous ». Ouais, mais on dit pas nous, on dit on. Donc ils maîtrisent le on. Alors c'est sûr que l'entrée dans l'écrit est difficile parfois pour eux. S'ils n'ont pas en plus l'habitude d'entendre des histoires à la maison ou tout ça, ça peut être difficile pour eux de faire le lien entre le nous et le on, par exemple. Alors toujours sur la syntaxe au niveau de la compréhension des phrases, parce que là c'était vraiment, on va dire, élément par élément. Au niveau de la compréhension des phrases, on voit une évolution des stratégies. Alors je vous ai pas trop mis d'âge, en gros on va dire que celle-là c'est pas avant 4-5 ans qu'elle utilise, qu'elle a la vraie bonne stratégie morphosyntaxique, où on prend en compte les indices d'ordre des mots, les indices morphologiques pour interpréter. Au début, les enfants ils vont plutôt avoir les deux premières stratégies. Stratégie positionnelle. Est-ce que les enfants qui avaient bien compris tout à l'heure le chat embrasse le chien ou le chien embrasse le chat avaient bien compris toute la phrase? Pas évident. Ils ont bien regardé. En fait, la stratégie qu'ils ont au début, c'est de dire le premier que j'entends, c'est l'agent de l'action. Donc quand j'entends le chien embrasse le chat, je sais que c'est le chien qui fait quelque chose. Et donc ils se font vraiment avoir dans les phrases passives. Le chien est embrassé par le chat, ils vont garder le chien embrasse le chat. Donc ils n'ont pas encore une stratégie où ils vont prendre en compte tous les indices morphosyntaxiques pour interpréter. C'est plutôt cette stratégie-là qui est donnée. Ensuite, on a la stratégie pragmatique. Ça, c'est plutôt aux alentours de 4 ans, 3-4 ans, qu'ils vont commencer vraiment à faire ça, où ils vont prendre, par exemple, en compte certaines connaissances qu'ils ont, pragmatiques, donc sur comment le monde tourne, sur les choses qu'ils ont l'habitude d'entendre, de voir. Et par exemple, ils savent que y a que des choses animées qui peuvent faire des actions. Des objets, ils ne peuvent pas par eux-mêmes décider de faire quelque chose. Ma bouteille, elle ne peut pas décider de marcher, tout d'un coup. Par contre, moi, je suis quelqu'un d'animé, je peux décider de faire comme si elle marchait ou je peux la faire avancer. Et donc, ils vont commencer à prendre en compte le caractère animé et inanimé des objets pour dire lequel est l'agent de l'action. Donc, par exemple, si on leur met une phrase passive avec un truc inanimé au début, le fameux « la fleur est arrosée par la fille », mais ça, ça va pas parce que c'est pas réel dans la vie, mais vous voyez le principe, si on commence une phrase passive avec quelque chose d'inanimé, ils vont pas se planter. Ils vont pas se dire « ah bah je prends le premier comme l'agent », non, parce que le premier, il est inanimé, donc il peut pas être l'agent. Donc ils commencent à utiliser d'autres informations. Et puis, ils vont aussi donner généralement un sens qui est compatible avec leur connaissance de l'univers, avec leurs attentes, avec leurs préjugés aussi, parce qu'ils en ont très tôt des préjugés. Par exemple, c'était une étude assez récente qui m'avait fait rire. Même une phrase active, par exemple, où on leur demande de choisir entre des images, et on leur met le garçon tape la fille, je crois, c'était la fille tape le garçon. En fait, si on met la fille tape le garçon, ils ont plutôt tendance à choisir le garçon qui tape la fille. Est-ce que c'est plutôt en lien avec ces petits garçons qui embêtent les filles, alors soit les images que les parents peuvent transmettre, ou alors ce qui se vit dans la cour de récré, des choses comme ça. Donc voilà, par exemple, aussi interpréter une phrase comme « l'éléphant est léger comme une plume » ou « l'éléphant est léger », ils ne vont pas interpréter ça comme « l'éléphant est léger », ils vont interpréter ça comme « un éléphant, c'est lourd », parce qu'ils savent qu'un éléphant, c'est lourd. Donc tout ce qui va contredire, je dirais, leur connaissance du monde va être difficilement interprétable. C'est pour vous dire qu'ils n'utilisent vraiment pas une stratégie morphosyntaxique au début. Ils n'utilisent pas tel mot, dans tel sens, avec telle marque morphologique, dans tel ordre, qui fait qu'ils peuvent interpréter toutes les phrases de manière correcte, syntaxiquement. Ils vont interpréter par rapport à des connaissances qu'ils ont. Donc ils vont plutôt essayer de deviner, on va dire, le sens. Donc il ne faut pas se faire piéger avec ça. Donc on peut avoir l'impression qu'ils comprennent très très bien des phrases, et en fait, ce n'est pas sur la bonne stratégie qu'ils sont encore. Donc la stratégie morphosyntaxique, ce n'est pas avant 4-5 ans, en gros, qu'on la voit vraiment très efficace. C'est plutôt les autres avant. Au niveau de la reproduction du discours, cette fois-ci plus une phrase, mais donc production, puis on aura la compréhension après, je crois. Donc vraiment quand ils font un discours, parce qu'on travaille beaucoup le discours avec eux, quand on commence à leur faire raconter des histoires, tout ça. Pareil, au niveau des stratégies, on voit une évolution qui se retrouve aussi au niveau de la production de certaines marques syntaxiques pour donner le discours. Alors, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'au début, les enfants, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, il ne faut pas avoir des attentes trop énormes comparées à ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. En gros, ils ne peuvent pas, au début, réussir à vous faire le récit super structuré, super détaillé. Ça, c'est à l'école élémentaire, à la rigueur. En maternelle, on a plutôt ces deux phases-là. Phase procédurale, 4-5 ans. L'enfant, il ne sait pas encore planifier vraiment tout ce qu'il va faire. Il a encore des soucis de planification. Donc, par exemple, vous lui donnez des images. Pas évident déjà qu'il les mette dans le bon ordre. Et puis même une fois, même si à la rigueur elles sont dans le bon ordre, il va être encore très lié au concret. C'est ce que Piaget disait au début, ils sont très sur le concret. Donc il va plutôt être sur image par image, et il va vous décrire super bien chaque image, mais il n'y aura pas de véritable histoire globale. Il n'y aura pas de lien entre les images, de lien chronologique, de lien de conséquences, de voilà. Si c'est toujours le même petit personnage qui est sur les images, et ben ce sera le petit garçon, et ensuite c'est le petit garçon, et le petit garçon, il ne va pas vous mettre des îles par exemple. Donc au début, c'est vraiment image par image, donc des énoncés qui sont corrects hein, syntaxiquement, par contre, des énoncés qui sont juxtaposés. Donc il n'y a pas un véritable discours organisé avec une structure globale, un début, un milieu, une fin, un truc surprenant, une résolution à la fin. Enfin, voilà. Il n'y a pas tout ça. Après, vers 5-7 ans, on commence à voir ça. La phase métaprocédurale, donc là, on va commencer à avoir un discours. On va commencer à avoir la compréhension de la structure du récit. Il y a un début, il y a un élément déclencheur, il y a un truc surprenant, il y a une résolution après du souci, il y a une morale à la fin. Tout ça, ils vont commencer à vous le mettre en lien. Les images, ils peuvent les mettre dans le bon ordre. Ils vont commencer à vous mettre des « il », des choses comme ça. Le petit garçon, au début, voilà, il fait ça. Et ensuite, « il », nanana. Et ensuite, « il », nanana. Donc, c'est un discours qui va être organisé. Par contre, ils ne peuvent pas tout faire, encore. Donc, c'est un discours qui va être, en général, assez pauvre. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup sur... ils vont regarder, on va dire, la représentation d'ensemble qu'ils ont, l'histoire qu'ils veulent raconter, le discours qu'ils veulent vous faire, donc produire un texte qui est structuré, qui est cohérent. Par contre, ça va être au détriment des détails qu'il peut y avoir sur les images. C'est plutôt qu'est-ce que ça peut raconter globalement, et au niveau des détails, on n'aura pas grand-chose. Donc c'est pour vous dire, au début, on ne peut pas tout avoir. Soit on a du détail, mais on n'a pas de structure, soit on a de la structure, mais on n'a pas de... C'est ça. Soit on a de la structure, mais on n'a pas de détail. Je ne vous ai pas dit la même chose. Et donc la stratégie interactive qui permet justement de faire et de la structure et du détail et d'autres choses, des inférences, des choses qui sont pas décrites sur les images mais qu'on peut imaginer, faire un va-et-vient entre les connaissances qu'on a et puis les images, ce qu'elles représentent pour dire des choses en plus, tout ça c'est plutôt vers 8-9 ans même qu'on commence vraiment à le voir en place. Donc au début, pas trop non plus de la part des enfants. Quand on dit qu'ils veulent qu'ils produisent un discours organisé, voilà, faut pas trop de détails. Et donc ça se retrouve au niveau de leur organisation des phrases dans la production. Au début, c'est de la juxtaposition. En fait, on n'a pas de tout ce qui est adverbe, toutes les coordinations, toutes ces choses-là qui peuvent apparaître dans leur discours. Donc c'est vraiment de la juxtaposition. Ensuite, on a de la coordination, le fameux « et puis après » et « ensuite ». Ensuite, on a les subordonnés relatifs qui commencent à apparaître vers 4 ans, donc les qui, que, quoi, donc, où, enfin, surtout les qui, que, au début, qui fait aussi que dans les questions, ça commence à apparaître vers 4 ans. Donc, l'utilisation des pronoms relatifs. Ensuite, on a plutôt tout ce qui est circonstanciel, donc les phrases deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus structurées, avec de plus en plus d'informations. Je vous ai juste mis cet exemple, parce que ça a un lien, par exemple, sur les consignes. On sait que les circonstanciels de temps, elles peuvent gêner jusqu'à même après 6 ans, même si les enfants les utilisent. Ce qu'on pourrait dire qu'ils ont un peu une stratégie positionnelle aussi pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire qu'on énonce les choses dans l'ordre d'apparition, dans l'ordre temporel. Et donc si on leur fait une phrase comme, en maternelle, Sophie va à l'épicerie après avoir acheté le pain. Et qu'il y a deux images, une où elle va à l'épicerie, où on la voit sortir de la boulangerie avec une baguette. On leur dit de mettre dans le bon sens de cette phrase-là, des enfants petits, à 4-5 ans, ils vont en général vous mettre d'abord l'image où elle va à l'épicerie et ensuite l'image où elle va chercher le pain. Parce qu'ils ne sont pas encore dans cette analyse morphosyntaxique, ils sont plutôt dans, d'habitude on dit les choses dans l'ordre, donc Sophie va à l'épicerie et ensuite elle va acheter le pain, alors que c'est l'inverse. Et donc juste au niveau des consignes, quand on donne des consignes aux enfants, des fois on peut avoir tendance à vouloir donner le but final et ensuite les moyens par lesquels ils doivent y arriver. C'est bien de donner d'abord les moyens pour après donner le but. Donc si au final c'est de réussir à coller des images sur un truc, mais d'abord ils doivent les découper, si pour certains enfants vous leur dites « tu colleras les dessins sur ton cahier après les avoir découpés », il y en a en général plusieurs qui vont d'abord coller et ensuite dire « maîtresse, je fais comment pour découper maintenant ?» Donc en général, on commence, on fait vraiment, on dit les choses dans l'ordre temporel. C'est vous découpez et ensuite vous collez. Donc parce qu'on sait qu'il y a ces problèmes de compréhension. Et puis le dernier point que je voulais mettre dans la partie développementale, c'était le développement pragmatique. J'ai pas le temps de vous parler de toutes les études, donc j'ai pris un aspect, parce qu'on n'en a pas trop parlé avant, et ça fait partie des objectifs des enfants en maternelle, c'est de devenir de véritables interlocuteurs. Alors une situation d'interlocution, c'est pas simplement l'alternance des tours de parole, c'est vrai que c'est ça. Être interlocuteur, c'est je parle et quand l'autre y parle, je l'écoute. Enfin, en tout cas, je parle pas en même temps que lui. Et donc l'enfant doit apprendre l'alternance des tours de parole, ça c'est plutôt un objectif en petite section. Je dirais, doit accepter l'alternance des tours de parole, ça c'est plutôt l'objectif en moyenne section. Et à partir de la moyenne section, on va aussi commencer à travailler plutôt sur les deux autres aspects. Je dirais, c'est d'être adapté et compréhensible par l'autre. Et d'être respectueux, enfin vraiment écouter les autres. C'est-à-dire que quand on parle, et que l'autre y parle, on l'écoute, vraiment. Et donc on prend en considération ce qu'il nous dit. Les enfants, au début, ne sont pas comme ça. Les enfants, c'est eux, ils parlent, ils ont dit leur truc. Les autres, ils parlent, à la rigueur, ils sont en train de jouer, en train de discuter, en train de bavarder, ils ne sont pas encore dans l'écoute. Donc les enfants, ils doivent comprendre que être un véritable interlocuteur, c'est aussi faire quelque chose du discours de l'autre. C'est l'écouter, c'est intégrer ce qu'il nous dit dans nos propres connaissances, c'est peut-être changer les croyances qu'on avait, changer les connaissances qu'on avait, c'est se comporter différemment, parce qu'on intègre ce que l'autre est en train de nous dire. L'autre aspect, c'est aussi eux, en tant que interlocuteurs, donc en tant que ceux qui vont produire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'autre dans leur discours ? Est-ce qu'ils vont être compréhensibles pour l'autre ? Est-ce qu'ils vont s'adapter à l'autre, au niveau du débit, au niveau du contenu ? Est-ce qu'ils vont vous dire des choses de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre ? Et donc éviter des trucs quand ils vous parlent de ce week-end j'ai fait ça et je suis allée là et c'est quoi ça, c'est quoi là, nous on sait pas, lui il pense, vous savez que les enfants au début en gros ils pensent que tout ce qu'ils savent les autres le savent, et donc ça faut qu'ils arrivent à comprendre à un moment que tout ce qu'ils savent les autres ils peuvent savoir autre chose, ils peuvent ne pas savoir ce que lui il sait, et donc l'enfant il va devoir réussir à intégrer ça dans son discours. Donc l'interlocution c'est un truc très très vaste en fait. Alors on sait qu'ils sont capables de commencer à s'adapter à leur interlocuteur pour tout ce qui est contenu, intonation, rythme, des choses comme ça. Entre 2 et 4 ans, ça commence en fonction des grandes catégories. Par exemple, ils vont se comporter différemment vis-à-vis des parents ou des inconnus. En général, ils vont parler aux parents, pas parler aux inconnus à cet âge-là. Mais ils peuvent se comporter différemment avec le père et la mère. Et puis les catégories vont commencer à s'affiner. À partir de 4 ans, jusqu'à encore 8-9 ans, par exemple, le fait de parler avec cette fameuse intonation très exagérée, ce rythme ralenti, à 4 ans, les enfants le font quand ils parlent à des bébés. Spontanément, ils parlent aussi avec cette façon un peu bêta qu'on a de parler aux enfants. Bêta, mais très intéressante qu'il faut faire. Et même si vous regardez, vous avez un triple niveau ou un truc comme ça dans votre classe, si vous mettez des enfants de plusieurs, un enfant de grande section avec des enfants de petite section, parce que qu'est-ce qui est jeune pour eux, ça varie comparé à nous, on peut avoir tendance justement à voir que les enfants de grande section vont adapter leur discours aux petits. Ils vont pas utiliser, ça va pas être la même longueur des phrases, ça va pas être le même rythme, ça va pas être les mêmes mots. Donc ils savent s'adapter. Ils commencent à savoir s'adapter.